Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Chaque après-midi, à l'heure du goûter, à l'heure du thé, nous sommes avec Mathieu Noël pour se vider la tête tout en la remplissant, bien sûr, autrement dit, se détendre et apprendre durant 2 heures. Et autour de Mathieu Noël, eh bien, il y a toujours la complice Eva Rock, sa complice, les journalistes de la rédaction d'Europe 1, munis de leurs meilleurs sujets dans le cadre de la compétition, chacun d'eux jouant le jeu, et puis d'un invité d'honneur. Parmi les invités de la semaine passée et la semaine allant du vendredi 7 au jeudi 13 février, eh bien, il y avait la sexperte et journaliste Maya Mazorette, l'acteur Lucien Jean-Baptiste, l'humoriste Monsieur Poulpe, la comédienne Mélanie Douté et François-Xavier Demaison, comédien, mais pas que d'ailleurs. Vendredi dernier, il était venu nous parler de son actu théâtre. L'équipe est sauvage, c'est aussi, vous le savez, une compétition. Place donc au sujet de l'un de nos correspondants en région.
C'est comme si les derniers chantres du surréalisme s'étaient passé le mot pour devenir tous correspondants d'Europe 1 en région. Chaque jour, dans Régional Géographique, ils nous font découvrir des initiatives locales que même le mot farfelu peine à décrire. L'un des derniers à en avoir fait les frais, c'est justement, je vous en parlais, votre complice sur scène, François-Xavier Demaison, François Berléand, qui était là le jour dit de la réintroduction du castor par des scientifiques à poil.
Le castor était donc de retour dans le Nord, d'autant qu'après avoir posé des pièges à poil...
Des pièges à poil, c'est à qui a posé un piège à poil?
Les spécialistes, hein. Alors c'est un instrument, hein. C'est pas une façon de poser des pièges. Un lointain cousin du castor d'Amérique.
Je savais que votre sujet vous déstabiliserait vous-même, Lionel.
Qui a donc réapparu?
Non, mais c'est passionnant.
Quel acteur? Un César pour Berléand. François-Xavier Demaison, réussirez-vous à simuler la curiosité avec le même talent que François Berléand? On va voir ça. Bonjour Jean-Luc Boujon.
Hey, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bonjour
Jean-Luc. Bonjour François-Xavier.
Vous nous parlez d'une eau de vie fabriquée dans le Cantal en Auvergne à partir de vin recraché. C'est quoi cette histoire? C'est pas possible.
Si, c'est possible. Alors je vous l'accorde, à première vue ça fait pas envie, hein, mais je vais vous expliquer. En fait c'est la démarche de Baptiste François qui a une distillerie à Saint-Étienne de Chaumeil, c'est dans le parc national des volcans d'Auvergne. Alors lui son truc c'est la récup, donc il fabrique des alcools, des nioles, des eaux de vie à partir de produits qu'on jette en temps normal. Par exemple il récupère des bières déclassées chez des producteurs, des bières avec un arôme qui ne plaît pas ou un essai qui n'a pas été concluant. Il n'y a aucun problème sanitaire, hein, mais tout ça est généralement jeté. Lui il en fait une eau de vie de bière qui ressemble à un whisky. Et pour le vin, bah c'est pareil, il récupère du vin sur des salons de vin nature uniquement, il récupère les fonds de bouteille et donc aussi le vin qui est recraché après dégustation, il vide les crachoirs en fait. Et après distillation, il en fait une eau de vie très parfumée. Bah écoutez-le, hein, tiens Baptiste François.
Le fond de ce que je récupère avant de passer dans l'alambic, c'est vraiment pas très ragoûtant. On est d'accord, je ne boirai jamais ça. Après, le processus même de la distillation, c'est un processus de purification. Dès que c'est distillé, niveau sanitaire, pour ceux qui s'en inquiètent, il n'y a absolument aucun risque. Ouais.
Et ça donne une eau de vie comment alors?
C'est une eau de vie de vin, donc on a toutes les caractéristiques d'une blanche de cognac, d'une eau de vie donc avec des notes de raisin et de fruits rouges. Voilà, c'est très fruité, c'est une eau de vie plutôt à destination de digestif. Ça peut être utilisé sur quelques cocktails ou en pâtisserie, mais il n'y a pas tout le côté boisé d'une fine fourgère ou d'un cognac.
Mais attendez, Jean-Luc,
tout est dans la distillation, hein, vraiment.
Les gens, ils savent ce qu'ils boivent?
Alors c'est indiqué sur l'étiquette au dos de la bouteille, parce qu'évidemment, il y a des
tout
petits. Attention, vin recraché.
Derrière, en fait, il explique l'expérience, en fait, où ça a été récupéré sur les salons, comment ça a été fait, et puis il explique aussi l'importance, c'est ce qu'il disait, de la distillation. Donc effectivement, il y a des gens que ça bloque. Hein. Il y a la moitié à peu près des gens qui ne peuvent pas. Ils peuvent pas se dire oh là là, mais il y a des crachats, etc. Alors que la distillation détruit tout ça. Et puis il y en a qui ont envie de goûter, qui ont envie de voir ce que ça donne. Il a même donné un petit nom à cette eau de vie. Ça s'appelle embrasser des inconnus. Joue là-dessus. Hein. L'étiquette est très jolie. Hein. Elle est blanche, elle est rose, c'est très jolie.
Moi, j'étais à deux doigts de goûter, mais là, le embrasser les inconnus.
Alors, vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'il en fait une toute petite production, à peu près 200 bouteilles. Là, il en a écoulé la majeure partie, à peu près 150, mais il m'a dit que si vous étiez intéressé, vraiment, il est prêt à vous envoyer une bouteille à toute l'équipe et à François-Xavier.
Bah, avec plaisir. Vraiment. Alors, parce que, effectivement, la distillation fait disparaître tout. C'est comme si on disait qu'on ne veut pas boire de l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet, elle est recyclée.
Ouais. Voilà, il y a de l'urine dans l'eau du robinet.
Il y a de l'urine dans l'eau du robinet.
Merci Alain. Merci Alain pour cette précision. On est bien.
Qui nous a vraiment donné envie d'investir une petite carafe.
Ouais, vraiment, ça nous met l'eau à la bouche, tout ça.
notre gourde.
Merci. Vous porteriez l'expérience, François-Xavier.
Ah, oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Embrasser dire... qui vous voudrez, je pense qu'ils ont des partenariats avec tous les lieux un petit peu échangés.
Embrasser des inconnus, tout le monde dit ça.
Ça va plus
embrasser
loin.
Qui vous voudrez, c'est ce qui vient aux gens.
Bon, Jean-Luc Bougeon, vous ne me mettrez pas de bouteille de côté, je vous embrasse quand même. N'embrassez pas qui vous voudrez non plus. Merci Jean-Luc Bougeon.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Et un correspondant en région peut en cacher un autre dans la place Stéphane Place, donc, qui a choisi de s'intéresser à un château transformé en habitat social. Nous sommes toujours avec Mathieu Noël, entouré d'Eva Rock et d'un invité, ici, Monsieur Poulpe.
Monsieur Poulpe est notre équipier sauvage aujourd'hui. Ensemble, nous chevauchons sur les terres fertiles en idée de notre beau pays. Eh bien, arrêtons-nous un instant en Gironde, devant ce beau château. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
J'ai ouï dire que chez vous, en Gironde, on allait transformer un château en habitat social. Dans cette époque d'individualisme forcené, c'est à peine croyable.
Et c'est pourtant parfaitement exact. Dans les années 20, un industriel lègue à la commune de Talence cette très jolie bâtisse des 18e et 19e siècles, le château Gardère. Mais une condition est posée, ce bijou patrimonial devra avoir une vocation sociale et solidaire, engagement qui demeure aujourd'hui alors qu'il faut rénover ce château, d'où la décision que vient de prendre la ville, signer un bail de 60 ans avec la fondation Habitat et Humanisme, à la clé 1 million d'euros de travaux pour créer une résidence qui accueillera des personnes âgées défavorisées, mais aussi, et ça c'est très important, des étudiants qui habiteront également dans ces nouveaux logements. Emmanuel Salaberry est le maire de Talence.
Un nouveau type d'habitat intergénérationnel, donc qui est une première en Gironde et qui va permettre d'héberger des personnes handicapées ou des personnes âgées, plutôt socialement défavorisées, mais également des étudiants dans les filières sociales. Finalement, c'est comme un contrôle continu. Ils vont être confrontés au public qu'ils auront à gérer une fois qu'ils auront été diplômés et qu'ils seront sortis de l'IRTS. L'intergénérationnel, c'est un thème qui est très à la mode, mais là, c'est vraiment créer une unité de vie où chacun sera indépendant et vous aurez également des unités de vie à l'intérieur de ce château qui permettront de regarder la télé ensemble, d'échanger, de faire des jeux, de se soigner, etc.
Et la fin des travaux est prévue pour l'année prochaine. Avouez que c'est concret, c'est malin, bref,
et
c'est
ça donne des
vraiment
idées,
pertinent.
Varoc.
Ah, ça donne des... C'était un château à rénover, Varoc ?
Non, elle cherche une colocation.
Voilà. Mais dans quelle catégorie étudiant ?
Merci Stéphane. Mais
vous êtes élégant, vous êtes
J'avais déjà précisé que je serais dans la catégorie vieille, vous inquiétez pas.
Ce rire qui trahit votre perfidie, Stéphane Place.
Oui, c'est odieux. Hein.
Oui, c'est odieux.
En tout cas, c'est une belle initiative. Merci beaucoup, Stéphane Place.
À bientôt.
À très bientôt.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Avec bien sûr Mathieu Noël pour conduire cette équipe sauvage, entourée d'Eva Rock, d'un invité et puis bien sûr d'un journaliste de la rédaction d'Europe 1, ici Virginie Fulpin. C'était donc ce lundi en présence de Maya Mazorette qui était invitée pour son livre « Le sexe selon Maya ».
Voici Virginie Fulpin. A priori, son sujet sur le sport connecté n'est pas relié au thème de notre émission, sauf que généralement, qui aime le sexe aime aussi...
Les muscles. Ils sont à l'homme ce que les pistons sont à l'automobile. Des muscles bien huilés sont une formidable source de puissance.
Et de plaisir. Entretenir ces muscles peut être une corvée, mais grâce aux nouvelles technologies, ça peut devenir un moment ludique.
Je vais pas réussir à prendre la même voix, là, j'essaie.
Je vais
laisser tomber. Donc, grimper l'Alpe d'Huez, on en parlait tout à l'heure, sans sortir de chez soi, maintenant c'est possible, ramer sur la Tamise sans passer par le tunnel sous la Manche, ou même courir le marathon de New York depuis chez soi. C'est donc la nouvelle tendance, le sport connecté gagne du terrain, et ce week-end à Paris, il y avait donc les championnats du monde d'aviron en salle. Moi, j'avoue qu'au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, les championnats d'aviron en salle? Et en fait, c'est assez impressionnant, ça se passait au stade Pierre de Coubertin. Il y avait 96 rameurs qui étaient en fait tous connectés ensemble à un système informatique pour gérer la course. Et tout le monde a les yeux rivés sur un écran qui fait 9 mètres sur 9, un écran plus que géant. Et tout a été étudié pour reproduire au plus près les conditions de la pratique extérieure. Donc, c'était des championnats du monde. Hein, donc, c'est la fédération qui organise ça. C'est pas du tout du folklore pour rigoler. Hein. Ce sont des vrais championnats du monde.
Mais ce sont ceux qui pratiquent aussi sur des cours d'eau ou ce sont d'autres sportifs?
Alors ça dépend. Il y a ceux qui pratiquent aussi sur des cours d'eau et qui ne peuvent pas l'hiver par exemple,
qui ont froid,
voilà, qui interrompent leur saison. Le cyclisme s'y est mis aussi forcément parce que l'hiver, grimper l'Alpe d'Huez en vélo, c'est quand même pas très pratique.
Bah, même l'été. Hein. Finalement, si je m'attaque à l'Alpe d'Huez.
Si, enfin, vous n'êtes pas très bien entraîné, c'est tout.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc en fait, avec le sport connecté et le vélo connecté, c'est-à-dire que les pédales, ça dépend vraiment de l'inclinaison de la pente que vous montez.
Et, c'est... et on voit ouais. aussi quand on monte à l'Alpe d'Huez,
on voit
les lacets.
Et,
on
a... et surtout, ce qui est impressionnant, c'est quand vous appuyez sur la pédale, vous ne pouvez pas, en fait, monter l'Alpe d'Huez. On s'en rend vraiment compte. Ouais. Et puis maintenant, donc, l'athlétisme, parce que les organisateurs des marathons sont très intéressés, parce qu'on ne peut pas tous aller faire un marathon à New York, à Berlin, à Londres. Donc, en fait, ils envisagent que les courses soient reproduites sur des tapis connectés à distance qui simuleraient exactement le parcours.
À côté de vous, l'ancien monde, la personne des Varrocks hoche la tête, elle n'a pas l'air contente.
Non, c'est pas que je ne suis pas contente, mais c'est que j'ai un vrai problème avec les tapis de course. Je trouve que ça ne donne pas du tout la même impression d'effort que quand vous
c'est
courez...
C'est plus facile de courir sur un tapis de course.
Mais là, ce sera des tapis connectés, ça va être vraiment différent. Et d'ailleurs, ça intéresse beaucoup Paris 2024, qui voudrait en fait que le marathon des JO soit reproduit. Les coureurs des Jeux Olympiques vont faire le marathon normalement, mais nous, chez nous, en même temps, on pourrait faire le même marathon et donc se mesurer aux champions.
Oui, recrudescence des crises cardiaques, c'est toujours une très belle idée. Alors... on va parler au ministère de la Santé quand même.
Évidemment qu'on ne mettra pas tous 2 heures à faire le marathon, mais je trouve que c'est plutôt une bonne idée de se mesurer aux autres, comme ça.
C'est marrant.
Alors, évidemment, on peut craindre aussi le repli sur soi, parce que là, on fait de l'aviron, on n'a pas besoin d'eau, on n'a pas besoin de bateau, on n'a pas besoin de gens avec qui le faire. Mais si c'est en appui du sport réel, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et puis surtout, ce qui a été étudié aussi par les clubs de fitness, c'est qu'en fait, pour courir ou faire du bateau seul, il y a beaucoup de gens qui ont peur, en fait, d'aller, par exemple, le soir faire du running, et donc qui préfèrent le faire chez eux. Donc, c'est aussi une réponse possible à un petit sentiment d'insécurité parfois.
Qu'est-ce que vous en pensez, Maya Mazorette? Ça vous dit le sport connecté ou vous trouvez ça justement trop déconnecté?
Ah non, si, moi je suis très fan justement de la réalité augmentée et la réalité virtuelle, donc j'ai ça à la maison, oui, et en sexualité en fait ça existe aussi, donc on peut bien sûr regarder de la pornographie avec un casque de réalité virtuelle qui fait qu'on a l'impression d'être à la place des acteurs, et si on n'a pas les moyens de s'offrir le kit qui coûte un petit peu cher, eh ben il y a des systèmes qui font qu'on peut mettre un iPad au niveau de son pénis, lequel est relié à un sextoy dont les mouvements sont connectés exactement à ceux de l'actrice ou de l'acteur pornographique qui en ligne. Donc on peut avoir en fait les mêmes sensations. Alors évidemment ensuite c'est du silicone que les personnes qui sont sur scène à ce moment-là en train de faire une scène incroyable.
Mais vous avez vraiment tout testé vous?
Alors ça j'ai pas testé, mais avec la réalité virtuelle oui.
On va vous envoyer probablement, les gens qui fabriquent vont vous l'envoyer.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et un invité d'honneur. Mardi, il était avec nous sur Europe 1, le comédien et réalisateur Lucien Jean-Baptiste, venu nous parler de son actu, il est l'auteur d'une série pour France 2. Dans un instant, il affrontera aussi Eva Rock sur un vrai faux Black or White. Mais avant, voici l'entretien.
Bonjour Lucien Jean-Baptiste.
Bonjour à tous, bonjour Europe 1.
On vous avait découvert au cinéma dans La Première Étoile, on vous a adoré toujours au cinéma dans Il a déjà tes yeux. Et voilà la suite en série sur France 2. On rappelle le pitch de Il a déjà tes yeux. Un couple composé d'un homme noir et d'une femme noire adopte un enfant blanc. Là dans la série, on les retrouve un peu plus tard, dirons-nous.
Oui, 13 ans plus tard, le petit blond a grandi et il s'est passé une chose qui arrive souvent dans des cas d'adoption, enfin pas hyper souvent mais de temps en temps, le couple a été débloqué, c'est-à-dire qu'on va les retrouver 13 ans plus tard avec un enfant naturel, le petit frère. Donc la famille est composée de deux parents noirs, d'un garçon noir de 13 ans et d'un petit blond de 13 ans. Ça y est, je me suis retrouvé. À 16 heures, c'est pas toujours évident.
Vous l'avez dans le bon ordre. On va pas vous le cacher d'emblée, avec Eva, on a adoré la série.
Ouais. Vraiment.
Et les personnages des deux enfants, justement, ça déjoue encore une fois tous les clichés, puisque le petit blond est fan de danse africaine et le petit black est fan de musique classique. Et il déteste le sport, contrairement à tous les clichés.
La danse, tout ça. Ils sont et un petit kiki. Parce qu'on parlait de sexe, alors j'en profite.
Salimata, comment avez-vous vécu cette adoption ?
Du bonheur. De toute façon, on a toujours rêvé d'être parents, alors.
Ça vous a jamais fait peur d'avoir un enfant noir, un enfant blanc ?
Mais au pays, là-bas, on a pensé que c'était de la plaisanterie. Mais non !
Je me disais, comme papa a revu son père, ce serait marrant que moi aussi je retrouve mes vrais parents, non ?
Tu parles de tes parents, les blancs.
Ouais.
Alors, une bonne série, c'est d'abord une bonne musique de générique.
Oui,
alors, dès le début, on a compris que c'était bon. Hein. Dès la première scène de la série, où c'est bien joué, tout est juste, et le générique part, et là, j'ai dit, c'est bon, on va tout regarder.
Oui, puisqu'il dit dans le générique, en anglais, alors c'est bien, la France comme ça, deviendra bilingue, enfin, c'est bilingue. Love is the answer. L'amour est la réponse. Voilà, tout est dit. Je peux y aller maintenant.
On l'a dit, Il a déjà tes yeux, c'était un film. Et là, vous avez choisi le format série. Vous l'avez choisi, on vous l'a imposé. Ça, c'est comment ça s'est trouvé de faire une suite qui ne soit pas au cinéma
Suite au succès du film, des producteurs sont venus me voir. Yvan Sadik de chez Lagardère, Ango Film. Et puis, les producteurs du film m'ont dit « Putain, ce serait vachement sympa de faire une série, machin, tout ça. » Moi, j'ai dit « Bof, bof. » Et puis, j'ai réfléchi avec mon co-scénariste. Et puis, comme je suis un garçon bavard, on m'a dit « Lulu, là, t'auras pas 1h30, 1h40, t'auras 5h pour balancer tout ce que tu veux sur plein de choses. » J'allais dire les blancs, les francs. Non, non, mais c'est pas bien. Donc, je vais aller avoir 5h pour balancer plein de conneries. Donc, on s'y est mis. Il fallait trouver l'idée. Et on a eu cette charmante idée d'imaginer avec des choses très personnelles, notamment la relation paternelle que je n'ai pas, que je n'ai jamais eue. Et on s'est dit, bon, on va s'amuser avec tout ça. Et ça a donné Il a déjà tes yeux, la série.
Exactement. Et c'est une dimension un peu autobiographique, donc si on comprend.
Oui, j'essaie toujours. Parce que vous savez, je vous jure que c'est difficile. On croit toujours que les comédiens, c'est uniquement les remises des prix et les petits fours. C'est du boulot. Et il est vrai que moi, si j'ai pas quelque chose de très personnel, on est de l'ordre de la catharsis ou psychanalytique. Voilà, j'ai besoin, je fais ce métier aussi pour me vider. C'est une drôle d'image.
Mais on se marre, bien en phase avec notre thématique de la semaine.
Et donc, j'y mets des choses très personnelles et ça me fait du bien. Et donc, j'ai besoin de ça pour avancer. C'est une espèce de moteur intérieur qui m'aide à aller au bout de mes aventures.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Le comédien et réalisateur Lucien Jean-Baptiste c'était notre invité d'honneur cet après-midi. Sa série Il a déjà tes yeux va vous régaler sur France 2. Alors, mon cher Lucien, vous êtes arrivé dans ce métier assez tard, finalement.
Oui, oui.
Avant d'être comédien, vous avez fait des études dans la publicité et la communication, puis vous avez travaillé plusieurs années dans la fabrique de produits dérivés pour des artistes ou des événements sportifs. En quoi ça consistait ?
Oui, en fait, je faisais ce qu'on appelle du merchandising. Ce sont les produits dérivés, les t-shirts, les programmes, etc. J'ai passé 6 ans au Palais Omnisport de Paris-Bercy, le POPB, Arena, maintenant ça s'appelle, je sais pas quoi. Voilà, organiser tout ça. Et puis après, j'ai monté ma boîte. Et puis à 30 ans, j'ai décidé de vivre mon rêve. Voilà, c'était pas de vendre des t-shirts, mais c'était surtout d'être comédien. Voilà, donc je suis allé au cours Florent.
Au cours Florent, vous avez été pris dans la classe libre.
Oui, c'est un concours, il faut le passer. Et j'ai réussi ce concours, ce qui m'a donné confiance en moi. Et voilà, et depuis, ça ne s'arrête pas.
Et parmi les rencontres qui ont compté, à l'époque, vous étiez encore dans le merchandising, je crois que c'est Michel Jonas.
Oui, oui, Michel Jonas, c'est le premier artiste que j'ai eu. Excuse-moi, je rigole.
La
vie est dingue, Mais c'est génial parce que j'ai quitté Bercy, j'ai monté ma boîte et il fallait que je trouve un premier artiste, signer un artiste. Et c'est Michel qui a dit OK. Et donc c'était original parce que lui, Michel, et tout ce qui était un petit peu merchandising, ça ne faisait pas du tout. Ouais. Donc il fallait que je trouve des produits un petit peu intello. Enfin voilà. Et des années plus tard, lorsque j'ai changé de vie. Pour mon premier film, Michel était là aussi, donc il y a des jolies pirouettes. Quoi. Et maintenant, on est pour la vie. Quoi.
Et il est dans la série, évidemment.
Ah oui, il est dans tout ce que vous faites.
C'est obligatoire.
Lucien Jean-Baptiste, pour le quiz thématisé du jour, je vous propose un hommage, coup de cœur, clin d'œil à votre série Il a déjà tes yeux, où un couple noir adopte, je le rappelle, un enfant blanc. Nous allons faire un vrai faux Black or White. Black or White. Alors, à Eva Rock, les questions Black. À Lucien, les questions White. Une bonne réponse, un point, c'est parti. Eva Rock.
Oui.
En Indonésie, il existe un poulet entièrement noir. Plume, chair, eau, os, pas comment le dire, et même organe interne. Tout est noir, vrai ou faux ?
Ah mince, si vous vous étiez arrêté au plumage, j'aurais peut-être dit oui.
Je suis allé un peu loin là.
Mais là, ça va un peu trop loin là. J'irais non, j'irais faux.
Ouais, bien, c'est vrai.
Non.
C'est la poule sémanie qu'on trouve sur l'île de Java, très rare. Elle vaut 1500 euros. Oh. Ça fait cher la poule. Son bec est noir, mais aussi sa langue. J'ai décidé d'agrémenter d'un effet sonore. Lucien Jean-Baptiste, il est le seul blanc à avoir couru le 100 mètres en moins de 10 secondes, c'est le français Christophe Lemaître.
Oui, oui, oui.
Le jour de sa performance, Jean-Marie Le Pen a déclaré « Que l'on vérifie, je suis sûr qu'il est noir ». Vrai ou faux ?
Non, c'est faux, c'est faux.
C'est faux, bonne réponse, Lucien Jean-Baptiste.
Le pauvre Lemaître, je peux commenter ça une seconde. Le pauvre Lemaître, il s'est retrouvé dans une situation de dingue, ce qu'on connaît, enfin bref. C'est-à-dire, ça y est, il n'était plus qu'un blanc. C'est comme parfois quand un noir fait quelque chose ou une femme quelque chose. Vous êtes la première femme, vous êtes le premier noir, vous êtes... Et le pauvre, il s'est pris ça, il a eu beaucoup de mal à gérer les entrevues.
Donc Jean-Marie Le Pen n'a pas déclaré ça, vous avez raison, Lucien Jean-Baptiste.
Mais qu'est-ce qu'il a déclaré ?
En revanche, non, il n'a rien déclaré, Jean-Marie. Suite à sa performance, Christophe Lemaître a reçu un mail du Ku Klux Klan.
Ah, voilà.
Plaisir. Oui, ça fait toujours dur. Plaisir, le mail Ku Klux Klan, qui voulait l'inviter à venir leur rendre une petite visite tout frais payé au Texas. Une proposition qu'il a déclinée, étonnamment, Christophe. Lucien, Eva, vous répondez en même temps, donc c'est une question grise. Qui est...
C'est une question Michael Jackson.
C'est très pensé, là. Qui était gris à l'origine ? Trois propositions. Hulk, Titi dans Titi et Gros Minet ou la panthère rose?
Ah, la panthère rose.
Bah, Lucien, elle a donné la bonne réponse, je peux plus répondre maintenant.
Ça, je ne sais pas. Vous avez le droit à une autre réponse.
Pas Titi parce que il est jaune, c'est là. Bah, l'autre là.
Hulk.
Hulk, ouais.
C'est une bonne réponse. Et oui, Eva, vous êtes tombée dans le panneau. C'était Hulk. En mai 62, Marvel sort un deuxième comic après les 4 Fantastiques. Mais comme le résultat n'est pas terrible, on part plutôt sur du vert. La couleur est plus facile à reproduire pour les rotatives d'impression de l'époque. Et c'est une véritable information, Eva. Quoi,
Moi, je crois qu'elle était bien grise, la panthère rose.
Mais vous contestez?
Non, je conteste pas.
Mais à ce moment-là,
vois
avec
très mal,
des
si, en fait.
On mettrait Paris en bouteille, comme disait mon papy.
Oui.
Lucien Jean-Baptiste, une question.
Je suis vert. Non, c'est une réplique de Hulk.
Une question white, est-ce que vous êtes prêts?
Yes.
Les excréments de hyènes sont blancs. Vrai ou faux?
Quelle horreur.
C'est là qu'on se demande qui crée ces questions.
Ah ben, il s'appelle Sébastien Bordenave, je peux vous présenter après l'émission si vous voulez.
Sébastien, si tu nous écoutes, les spectateurs.
Il nous écoute et il a honte.
Yes. Les excréments de hyènes sont blancs, c'est ça? Bah oui, allons-y, oui.
Et oui, mais c'est une bonne réponse.
Parce qu'ils mangent que des blancs.
Et alors pourquoi? Pas tout à fait, mais il y a de ça. Les hyènes brisent les os de leur proie et les ingurgitent. Leurs selles sont blanches car elles ne peuvent pas assimiler tout le calcium qu'elles ingurgitent.
Ah ouais, incroyable.
Et Varrock.
Bah, j'ai déjà perdu,
mais vous avez déjà perdu, mais attention, celle-ci,
elle vaut mieux.
Question black.
Oui.
Saddam Hussein avait une armée personnelle dont la tenue était entièrement noire, avec un casque de Darth Vader, parce que ses fils adoraient la guerre des étoiles. Vrai ou faux?
Capable de dire oui. Enfin, c'est capable. Oui, allez, je dis oui. Tellement
c'est
fou cette histoire.
C'est vrai, faux. Je crois qu'ils étaient en noir, mais pas avec un truc de Darth Vader.
Eh bien non, c'est vrai.
Ouais.
C'est vrai. Les fédayines Saddam étaient affectés au palais présidentiel de 1995 à 2003. Ces soldats étaient commandés par Uday, le fils de Saddam, avec un casque comme Darth Vader, le bas en moins. Qui remporte ce quiz?
Évidemment.
C'est Lucien Jean-Baptiste qui remporte le quiz.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, autour duquel eh bien, on retrouve maintenant Eva Rock, l'humoriste Monsieur Poulpe, qui officie toujours sur Canal+, avec deux programmes, Poulpovision diffusé le dimanche et Crac Crac le podcast, sans oublier son projet au concept original Alain au Pays des Merveilles aux éditions La Case en moins. Autour de Mathieu Noël, eh bien, il y a aussi Jean-Philippe Ballas, dont on va découvrir tout de suite le sujet. C'était donc mercredi sur Europe 1.
Il s'approche du micro avec la fierté et le port altier du torero andalou s'avançant dans la poussière de l'arène vers son destin. Signe particulier de Jean-Philippe Ballas, la classe. Comme on a pu le vérifier lundi lors de notre spécial sexe, lorsqu'Eva a tenté d'analyser un de ses rêves.
J'avais un énorme sexe, mais je comprenais pas que c'était moi en fait.
Ça m'arrive souvent. Hein.
Jean-Philippe serait-il le mystérieux Don Chibro qui fait tourner en bourrique Eva Rock? Nous le saurons peut-être dans un prochain épisode. En attendant, Jean-Philippe...
C'était pas un rêve, hein. Vous vous souvenez. Hein. Ouais, je le raconterai pas, mais c'était pas un rêve.
Oui, c'est vrai que c'était une expérience de réalité augmentée. Un casque VR.
Je suis très mal à l'aise.
Vous avez déjà fait ça, la réalité, parce qu'on sait que vous êtes dans Crac-Crac, vous parlez souvent de porno et tout ça, vous avez fait avec le casque de réalité virtuelle.
Bien sûr. Ouais.
C'est pas mal.
C'est génial, et j'ai poussé le vice à après le faire en vrai avec la même comédienne.
Et qu'est-ce qui était le mieux finalement?
Vous en aviez qu'une de comédienne dans le film que vous avez regardé?
Non, il y en avait plusieurs, mais après, humainement, c'est compliqué en termes de séduction.
Comment repasser à la chronique de Jean-Philippe Ballas? Jean-Philippe, vous nous racontez souvent de bien belles histoires. Aujourd'hui, une histoire émouvante.
Je vous présente Angela Hewitt, c'est une pianiste canadienne, très renommée dans le petit monde des concertistes. Et Angela, elle vous présente son meilleur ami, son compagnon, c'est ainsi qu'elle l'appelle. Angela vous présente son piano. C'est toujours le même, jamais un autre, et ça fait une vingtaine d'années que ça dure maintenant. Là, c'est elle, et c'est lui que vous entendez. Lui, un piano à queue, noir, de la marque Fazioli. Alors, du nom de son créateur, Paolo Fazioli, c'est un Italien qui ne construit que des pièces uniques, à la main. C'est un peu ambiance Ferrari dans son atelier. Il est au nord de Venise, dans le coin où on trouvait les arbres pour faire les Stradivarius. Ça vous pose un peu le personnage. L'exemplaire d'Angela a coûté près de 200 000 euros avec un pédalier spécial unique au monde. Il y a 4 pédales à son piano.
Ah non, il y en a 3.
Sur ce modèle.
Donc il va plus vite, c'est ça?
Il y a quand même une vitesse. 18 vitesses?
Bref, autant dire que ça plaisante pas. Le drame, les amis, le drame est survenu il y a quelques semaines. Après un enregistrement à Berlin, comme d'habitude, Angela Hewitt a laissé son piano partir avec des déménageurs qui l'ont laissé tomber.
Effet sonore, budget.
il est dead, le piano. Il n'y a plus rien, il est capout.
Ah non, mais vraiment, capout.
Ouais, son fabricant, Paolo Ferzioli, il est venu d'Italie tout spécialement pour inspecter. Il a dit... c'est mort, on ne peut pas les récupérer.
Je avec, avec cet accent avec cet
il accent, est parti sur l'accent italien.
Est-ce que du coup Angela elle jouait du piano en debout du coup? je sais pas
les vannes s'enchaînent à toute vitesse.
ne vous moquez pas d'Angela, elle a mis une dizaine de jours à sortir de son silence et là elle vient de publier un très long post sur les réseaux sociaux. Alors elle précise qu'elle n'en veut pas aux déménageurs, elle dit qu'elle leur faisait confiance depuis des années, ils ont fait leur métier, mais quand on lit ça, c'est vraiment une lettre de deuil hein, qu'elle publie aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre parce qu'ils disent, après tout, un piano, ça se remplace. Mais c'était vraiment son piano à elle et les concertistes, c'est vraiment un toucher particulier. Je rappelle que chaque pièce construite par Fazioli, chaque pièce est unique.
Mais Fayazoli, là, il ne peut pas lui reconstruire le même piano exactement.
Alors, si, il ne peut pas faire. On ne pourra jamais faire exactement le même.
Ah, c'est pas le même bois.
Exactement. Chaque pièce est unique, encore une fois. Alors, elle va en récupérer un dans quelques mois, mais il faut comprendre, on avait Renaud Capuçon il y a quelques temps dans cette émission, le grand violoniste.
Ah oui, il était amoureux de son violon, lui, Renaud.
Il lui a même donné un nom, Vicomte de Panette, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Ouais. Et alors, il ne se sépare jamais de lui, il est toujours là, il était dans le studio à côté de lui.
Et il le met toujours en hauteur, parce qu'il a la phobie des inondations, Renaud Capuçon. Donc il le met toujours au moins sur une chaise ou sur un lit. Donc bien comprendre que les concertistes ont quand même un rapport charnel, c'est vraiment le prolongement d'eux-mêmes, leur instrument. Donc on comprend que Angela Hewitt est très triste aujourd'hui. On espère qu'elle récupérera vite un vrai piano. Mais vous-même, Mathieu Noël,
moi-même, oui.
Je vais révéler un secret auditeur.
Son saxophone ?
Sa bonnette de micro.
Mais oui, c'est pour ça qu'elle sent très fort.
Elle sent très très fort, mais elle est particulière et j'enlève toujours la bonnette qui est dans son micro pour mettre la mienne.
Mathieu Noël ne fait son émission que avec sa bonnette.
Sinon, on annule.
C'est génial.
Monsieur Poulpe, est-ce que vous êtes fétichiste, vous ? Mais attention, hein, on n'est pas dans crac-crac, hein, on parle d'instruments, est-ce qu'il y a quelque chose qui...
Oui.
Un objet ?
Oui. Est-ce que je suis fétichiste ? Que sexuellement. Je suis désolé, pardon, Mathieu, il n'y a que...
Moi j'ai le
fétichisme du strabisme divergent.
Le fétichisme du strabisme divergent. Vous recherchez des femmes.
Quand une femme a un strabisme divergent, je deviens complètement dingue. Ouais, ça me fait perdre tous mes moyens. Pour de vrai, ouais.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et à présent Mélanie Douté qui a refusé de tourner dans la saison 2 de Clara Scheller et qui lui a préféré la série Capitaine Marlowe. Elle a pu d'ailleurs s'en expliquer. C'était jeudi sur Europa.
Ouais. Mélanie, on va vous retrouver mardi prochain sur France 3 en guest star d'une des séries françaises les plus populaires, si ce n'est la plus populaire du moment, Capitaine Marlowe avec Corinne Maziero. Qu'est-ce qui vous a décidé à le faire ? La perspective de tourner avec José Dayan ou la perspective de tourner en Corse ?
Et de rencontrer Corinne Maziero, les trois.
Vous ne connaissiez pas avant Corinne Maziero ?
Non, je ne la connaissais pas. José, on s'était rencontrés plusieurs fois parce qu'on voulait bosser ensemble depuis longtemps et puis ça ne s'était pas fait. Et là, les trois ingrédients ont fait que c'est un super gâteau.
Ça prend combien de temps de faire un épisode comme ça, le de tournage ?
C'est super rapide, hein. C'est à peine 15 jours de tournage.
Ah, 15 jours ?
15 jours, c'est super rapide ? Putain, j'y connais vraiment rien, moi. Ça me paraît long, 15
jours. À long métrage, ça peut prendre 8 semaines.
Oui,
c'est 1h30 aussi. Là, c'est 1h30 en 15 jours. C'est tau !
Alors, cette fois, nous sommes en Corse. Vous êtes médecin et après être parti plusieurs années pour faire des études et exercer à Paris, vous revenez dans le village pour prendre la succession de votre père. Et un jour, le capitaine Marlowe découvre le corps sans vie, justement, de votre père, à ses côtés, votre maman inconsciente. Commence alors une enquête au pays de l'Omerta. Sans dévoiler l'intrigue, il ne faut pas spoiler. On peut dire quand même que... Enfin, moi, dès le début, moi, je vous suspecte.
Oui. Suspectez-moi.
Vous n'êtes pas la première guest à être invitée dans cette série. Il faut expliquer que les guests dans Capitaine Marlowe, ils ne font pas une petite apparition. Vous êtes en fait l'héroïne de la série.
Oui, on peut dire. Disons ça comme ça, c'est vrai. Oui.
Et on peut dire que Corinne Maziero passe au second plan.
Oh non, c'est Corinne, vraiment le centre de cette série.
Elle sort saisie, t'as vu, professionnelle jusqu'au bout. Hein. Il y a eu Gérard Depardieu, Sandrine Bonner, Isabelle Adjani, Benjamin Biolay, Joe Estar ou encore Pierre Arditi et Kad Merad. Aujourd'hui, c'est sur le CV, c'est important d'avoir fait Capitaine Marlowe pour un...
Non, mais c'est une vraie expérience, en fait. Justement parce que ce dont on parlait tout à l'heure, il y a ce rythme incroyable où on doit faire du 8 minutes utile par jour. Et puis la rencontre avec José Dayan et Corinne, qui sont quand même deux personnages incroyables. Et puis oui, ces intrigues qui sont une excuse, en fait, pour le capitaine Marlowe de avec sa gouaille, son tempérament, ce côté très popu qu'elle peut avoir. Et puis, elle réécrit tous ses textes qui ont toujours une résonance incroyable avec l'actualité.
Ah oui, on est d'accord. C'est Corinne Maziero qui réécrit ses textes. On a l'impression que c'est même des parts d'improvisation du début jusqu'à la fin.
Oui, il y a de l'impro, mais enfin, c'est écrit. Ouais. Mais c'est elle qui réécrit ce texte, qui le met dans sa bouche. Et c'est vrai qu'avec Corinne, on s'est bien entendu parce que moi aussi, je réécrivais mes textes. Et du coup, il y avait un vrai travail d'écoute.
Sympa pour les scénaristes qui nous écoutent. Hein.
Non, mais on touche pas à leur intrigue qui est déjà assez compliquée quand même. Ça, on n'y touche pas. Mais après, on s'amuse justement avec qui on est. Et José Dayan nous laisse vraiment la liberté de ça.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage.
Vous la retrouvez mardi prochain sur France 3 dans un nouvel épisode de Capitaine Marlowe. Mélanie Douté est notre équipière sauvage du jour. Elle a l'air en forme. Ensemble, nous galopons collé serré, si tant est que ça signifie quelque chose que de galoper collé serré.
Collé serré.
Sur la grande plaine du savoir. Prochaine étape, les amis, le quiz maudit. Maudit car Eva ne gagne jamais. Mais à défaut de gagner, elle apprend. Et c'est bien là l'essentiel dans une émission à vocation culturelle comme la nôtre. Hier, avec Monsieur Poulpe, qu'est-ce qu'on a appris, hein ? Ah, la faune n'a plus de secret pour nous. À chaque accouplement, ils lancent leur pénis dans le vagin de leur partenaire.
Ça veut dire quoi ? Les femelles jettent leur vagin au visage de...
48 heures après, tout a repoussé.
Oui, donc c'est comme un concert des To Be Free, finalement.
T'inspira-t-on aussi loin sur les sentiers du n'importe quoi aujourd'hui ? Mélanie Douté se signe. Pour le duel du jour qui va vous opposer à Eva Rock, on va faire un clin d'œil à Clara Scheller en faisant un quiz série.
Maggie, c'est mon enfance.
Ouais. Voilà, ça me rajeunit. Je rappelle, Mélanie, que vous avez été Clara Scheller dans la saison 1. Vous êtes donc une spécialiste de série. Là où je vous rassure, Eva Rock n'y connaît rien. Le principe est simple, je vous donne une série, trois noms d'épisodes, un seul est vrai.
Oula, c'est compliqué.
Hein. Eva Rock, on joue avec Navarro. Trois titres d'épisodes, un seul est vrai, oui. Lequel ? Un rouleau ne fait pas le printemps, vous n'aurez pas la quiche Lorraine, côte à côte de bœuf.
Ils sont capables d'avoir mis les trois, hein.
Je vous donne une réponse en fait.
La deuxième.
Vous n'aurez pas la quiche Lorraine.
Ouais, vous n'aurez pas la quiche Lorraine.
C'est une très mauvaise réponse. Ah. La bonne réponse, c'est Mélanie qui l'a.
C'est le rouleau.
Un rouleau ne fait pas le printemps.
Non,
je vous donne le résumé.
Compte.
Je vous donne le résumé de l'épisode. On est quand même en 89. Une série de crimes frappe la communauté chinoise.
Non mais c'est pas possible.
Une boat people met Navarro en contact avec des parrains chinois.
Et ça vous fait rire. Mais que vous êtes bête.
Bref, c'était une autre époque. Allez-y. Mélanie Douté, oui. Vous aviez 7 ans quand la série a commencé. Je parle de Meg. Je vous donne 3 titres d'épisodes. Il faut trouver le vrai. Ça swing au club de golf.
Hey.
Raquette dans le milieu du ping-pong.
Oh.
Ou ce qui m'aime me suive.
Tcha-tcha. Ce qui m'aime me suive.
Ce qui m'aime me suive, wow. C'est une bonne réponse de Mélanie Douté. C'est incroyable. Ah ben je disais qu'elle était forte sur les séries, mais là, n'hésite même pas.
Elle répétait simplement le titre que vous veniez de donner.
Ah oui, mais moi je l'ai fait pour une réponse.
Voilà.
Ça tombe bien, un épisode sorti en 88 avec en guest star Gérard Holtz.
Oh là là.
Gérard, tu nous écoutes. Eva Rock, oui. Mélanie Douté, autre série culte, Julie Arnold, Gérard Rinaldi, un vétérinaire et un médecin, Marc et Sophie. 3 épisodes, là il faut trouver le faux. 3 titres.
D'accord.
Je vous donne le faux. Marc et Sophie. Oh.
On a eu la même jeunesse, c'est ça qui est beau.
Elle chante beaucoup mieux vous, hein. Vous
bien, oui, mais... j'ai envie de dire heureusement.
Oui.
3 épisodes, vous me donnez le faux. Oui. Nicotine, Nicoquine. Devine qui ne vient pas dîner. Et qui va à la chasse, tire la chasse.
Non. Il y en a un de faux.
La chasse pour Eva Rock.
Oh, la chasse aussi.
La chasse,
oui.
C'est une bonne réponse. Ah. Effectivement, 228 épisodes avec également Ginette Garcin, Daniel Gelin. Élise et Moon.
Si je ne me trompe pas, oui.
Oui, vous vous trompez, je pense.
Non, c'était Vivement Lundi, vous avez raison.
Ouais. Avec ma maman.
Oui, c'est vrai.
Élise et Moon, si
oui,
nous écoute,
Vivement
Lundi.
Content. Bah oui.
Mélanie Douté en joue sur la série Marie Pervenche avec Daniel Evenou.
Et mon papa.
Et un certain Alain Douté, effectivement, qui joue son mari dans la saison 3. Voici 3 titres d'épisode. Donnez-moi le vrai. Le chien aboie, ça fait mal aux oreilles. Tirez les premiers, messieurs les martiens. Quand on parle du loup, on ne devrait pas.
Un vrai titre.
Un vrai titre.
Martien, le loup et...
Le chien aboie, ça fait mal aux oreilles.
Oh là là, bah celui-là.
Le vrai ?
Ouais.
Le vrai, c'est tirer les premiers, messieurs les martiens. Et oui, et c'est tout simplement le tout premier épisode de la première saison. Imaginez.
Ah, mais où sont tous ces auteurs ?
Ils ont disparu, ils ont été emprisonnés,
voilà,
condamnés. Eva Rock, attention, oui. C'est la question qui va vous départager. On joue sur la série
mais
Clara Scheller.
J'ai déjà perdu, c'est tombé. Clara Scheller, oui.
Mais attention, la saison 2 avec Zoé Félix.
Ouais.
Quel est le vrai titre parmi ceux que je vais vous donner ? Le secret du pommeau de douche, l'énigme du stylo 4 couleurs ou le mystère du catogan ?
Le vrai, ça doit être les quatre couleurs.
Le stylo quatre couleurs. Ouais. C'est une parfaite mauvaise réponse. Le titre de cet épisode.
C'était
est...
le pommeau de douche ?
Non, le mystère du catogan. Si j'en crois mes sources, à savoir Wikipédia, le premier épisode de Clara Scheller a fait plus d'audience que combien ça coûte sur TF1 et la finale de la Coupe de l'UEFA sur M6, 27% de part de marché. Vous confirmez, Eva ?
Oui.
Merci. Qui remporte le quiz ? Ah, ben c'est vraiment étonnant. C'est Mélanie Douté qui
remporte notre
quiz.
Hein,
encore une victoire et encore une défaite pour Eva. C'est terrible.
Bon, je partage la coupe.
Merci beaucoup.
Non,
Mélanie.
Vous n'avez pas le droit.
Parce que j'ai pas de coupe en même temps.
Oui, Et franchement, vous voulez pas avoir de couronne non plus. Elle sera la guest star du prochain épisode mardi prochain de votre série adorée Capitaine Marlowe sur France 3. Mélanie Douté passe l'après-midi sur Europe 1.
16h, 18h.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1.
L'équipe est sauvage.
Et oui, nous sommes toujours avec Mathieu Noël pour la compilation du week-end, autour duquel on retrouvait Varrock. Et maintenant, Fred Goati qui a choisi de parler de Brian Ferry. C'était vendredi 7 février lors de l'émission en public et en présence du comédien François-Xavier de Maison.
Eva aurait adoré que vous nous parliez de Dick Rivers, ce qui correspond plus à ses goûts, mais vous nous parlez de Brian Ferry. Je vais peut-être vous choquer, mais qui est Brian Ferry ?
Non, il ne connaît pas Brian Ferry.
En tout cas, je connais son nom, évidemment, mais je ne suis pas sûr de connaître son œuvre.
Flashback, 1972, les dandys déglingos de Roxy Music sortent leur premier album. Alors, Roxy Music, c'était un claviériste incroyable qui s'appelait Brian Eno, par exemple, hein, qui était le pape de la musique planante, de la musique ambiante, et qui plus tard produira U2. Et puis, bien sûr, c'était le chaînon manquant aussi entre Errol Flynn et David Bowie, Brian Ferry, mesdames, messieurs, voix de velours et look Zazou Zinzin, quelque part entre Elvis Presley et Lorenzo Shaw. Au hasard. Roxy Music, c'était vraiment un groupe à part dans la musique anglaise. Très mélodique, musique très mélodique, dansante, volontiers décalée, expérimentale, mais toujours accessible. Brian Ferry, bien sûr, c'était l'auteur-compositeur principal du groupe, mais il va vite se lancer, ce qui est très rare dans l'histoire de la musique, parallèlement dans une carrière solo pour revisiter des standards du rock comme Sympathy for the Devil des Rolling Stones, par exemple, ou alors des standards de jazz des années 30.
An Atlantic to romantic places. And still my heart has wings.
These Foolish Things, hein, c'est l'extrait de l'album inédit qui sort aujourd'hui, live at the Royal Albert Hall. Très bel objet 10.
C'est presque un crooner, quoi.
C'est une sorte de crooner pop. Un crooner dandy, ce sont les mots que je vais employer dans quelques secondes aussi. L'album sort aujourd'hui. Non, mais ce sont les bons mots, justement. Exact, c'est très bien résumé. Il sort aujourd'hui, je l'offrirai évidemment à notre invité François-Xavier de Maison à la fin de cette chronique.
Très bien.
Il le note. Alain Siroux, t'as 5 minutes pour trouver, je sais pas, un éclat de météo.
Un abonnement à ciel et espace d'un an.
Il cherche
dans sa sacoche.
Un mug de la NASA ou quelque chose, je
ne
sais pas.
Ah, mais ça y est,
il l'a trouvé, bravo Alain.
Merci.
Découvrez de nouveaux horizons, le dernier ciel et espace.
François-Xavier de Maison, vous êtes invité à vie au bal Blomet.
Calmez-vous. Alors, cessons les pots de vin, recentrons-nous sur le fond.
Revenons à Roxy Music et précisément en 1982, l'année où. Alors. Tout le monde connaît.
Oui, ça je connais. C'est Brian Ferry.
Voilà, donc ça c'est extrait d'un album qui s'appelait Avalon et c'était un tournant dans l'histoire de Roxy Music et dans la vie de Brian Ferry qui est reparti se la jouer solo et qui s'est réinventé à partir de ce moment-là. Crooner suave, dandy au look glamour, arbitre des élégances en quelque sorte, jamais démenti.
Vous êtes bien dansé là-dessus, dans des slow pendant vos booms,
je
Mathieu.
Je n'évoque jamais ma vie privée, là, vous le savez.
C'est vrai, ouais, bien sûr.
La pop sensuelle qui fond dans les oreilles et pas dans la main. Hein. Attention, alors, mais attention.
Oula, j'ai
tonton
pas très
Brian,
bien compris cette métaphore, ça me fait peur. Vous êtes sûr de ce que vous avancez?
Moi, je l'ai compris, c'est ça qui me fait peur.
Ouais. Ça fait peur.
Tonton Brian, il a toujours le jazz au bout des lèvres, sans métaphore.
You must remember this. A kiss is still a kiss. The fundamental thing. As time goes by.
Ah, ça c'est très beau.
Le vibrato qu'il a, c'est dingue.
Magnifique, n'est-ce
pas ? Ça c'est sur l'album ?
Non, ça c'est plus ancien, ça date des années 90. Ah, mais il a une discographie très fournie, ce monsieur, hein, quand même. Alors, entre pop chic et cool et jazz glamour, couleur sépia, Brian Ferry est un homme qui fait ce qu'il veut quand il veut au gré de son humeur. Et il peut aussi faire l'acteur. À Hollywood ? Non. À Paris, au début des années 80, on l'a retrouvé, alors ça c'était incroyable, dans une série dont vous vous souvenez peut-être, qui s'appelait presque Petit Déjeuner Compris, avec Pierre Mondy et Marie-Christine Barrault. Et quelle ne fut pas notre surprise, on en a parlé le lendemain à la cour de récré au collège, je peux vous le dire. Eh bien, il est apparu comme ça, dans le rôle évidemment de la rockstar glamour qui venait chanter à Paris avec Roxy Music. Et évidemment, il flirtait avec Marie-Christine Barrault. Il y a une scène magnifique où ils achètent un journal de sa date de naissance, septembre 44. Et elle lui lit le journal. Il dit « Regardez, Luis Mariano, ce jour-là, il était à l'actualité. Eh bien, c'était un chanteur d'une vedette, encore plus connue que vous. » Et lui, il dit « Je déteste la compétition. » Elle me dit « Mais il est mort. » »« Ah bon, bah tant mieux. » Musique de Cosma.
Luis Mariano. Un
petit déjeuner.
Une grande vedette. Encore plus grande que
vous. I hate competition.
Mais il est mort.
Good.
Il est mort.
Good.
Good. Alors, évidemment.
C'est ce que vous direz une fois qu'Alain Sirou sera parti.
Non, pas à ce point-là, quand même. Alors, sa carrière fut donc constellée d'albums à succès, mais il n'a eu qu'un seul 45 tours numéro 1 avec Roxy Music. C'était quelques mois après la mort tragique de John Lennon, en décembre 1980. Ils ont réenregistré Jealous Guy. C'est une magnifique version. C'est écoutez. Alors, il sera en tournée en Angleterre au mois de mars. Il va repasser au Royal Albert Hall, comme en 1974. Il n'est pas annoncé à Paris pour l'instant. Alors, Brian, si tu nous écoutes, il y a toujours de magnifiques hôtels à Paris. Je crains que le petit déjeuner soit plus compris, mais on t'attend.
Brian Ferry, le chanteur qui fond dans la main et dans l'oreille, comme vous nous l'avez dit, Fred Goetti, j'ai pas tout compris.
Ils ne font pas dans la main.
Non, ils ne font pas dans la main, c'était très intéressant. Alors, Alain, ça vous a plu, Brian Ferry ?
C'est chiant.
Merci, oui, c'est la guerre. Hein,
c'est 16h, 18h sur Europe 1,
l'équipé sauvage.
Avec Mathieu Noël, toujours sa complice Varrock, et à présent avec Thierry Geffrotin de la rédaction d'Europe 1 qui a choisi de parler d'opéra en version classique mais aussi en version hip-hop ou en slam. C'était mardi. L'invité d'honneur était le comédien et réalisateur Lucien Jean-Baptiste qui est aussi l'auteur de la série Il a déjà tes yeux, diffusée sur France 2.
Qui va pouvoir frimer dans les dîners en citant tous les opéras d'Handel de mémoire ce soir ? Vous, mes fiefs et vénards, puisque voici venir notre expert musique classique, notre maestro. Celui pour qui la musique et les techniques de reproduction musicale les plus modernes n'ont aucun secret, comme il nous le prouvait encore la dernière fois.
Le son, c'est une très haute définition, c'est un son numérique 5.1. Ne me demandez pas ce que c'est, mais on sent que c'est très bien.
Oui, c'est super. Alors, Thierry Geffrotin, là où vous nous emmenez aujourd'hui, pas de Dolby 5.1, vous n'aurez pas à nous expliquer ce que c'est, mais un très beau son quand même en perspective.
Mais oui, alors cette année, vous savez, c'est le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, on va l'entendre toute l'année, donc je vous le redis. Alors j'aurais pu vous parler de Beethoven d'un anniversaire, non, je vais vous parler d'un autre anniversaire, mais cette fois, c'est pas Beethoven, c'est Handel.
Ah ça c'est Handel ça.
Je savais pas. Ça change de la sarabande. Hein.
Oui.
Ne me remerciez pas.
Je vous remercie toute ma vie, je vous remercie. Alors, en fait, quel anniversaire cette année avec Handel ? Sa mort ou sa naissance ?
Ni la mort, ni la naissance, ni la première communion, ni rien de tout ça. Mais il y a quand même une bonne occasion de vous parler de Handel cet après-midi. C'est le festival de Göttingen qui fête cette année le 100e anniversaire de son festival, de sa création. Alors Göttingen, je vous indique un peu où c'est. Vous connaissez la chanson de Barbara, évidemment.
Oui, mais on ne connaît que ça. Donc il va falloir plus d'indications géographiques.
C'est une ville de Basse-Saxe. On n'est pas très très loin d'ailleurs de l'endroit où est né Handel. Et Göttingen, eh bien, non content en effet d'avoir été popularisé en France par Barbara, a un festival qui fête cette année son 100e anniversaire. Première édition en 1920. Ils avaient donné un opéra de Handel, Rosalinda, que personne ne connaît ici, hein.
Non, moi non plus, je
vous le dis parce que
vous aussi, il y a des opéras que vous connaissez pas.
Handel, c'est comme Vivaldi, les opéras.
Il était prolifique, hein.
Très prolifique, parce que il était patron d'opéra, donc il faisait un opéra par saison. À l'époque, on faisait pas de reprises, si vous voulez. Hein.
Ah, mais pourquoi ?
Beaucoup de créations, mais parce qu'il fallait satisfaire le public. Aujourd'hui, on est très classique. Pour vous dire que cette année, les organisateurs se sont dit, oh, il y a 100 ans, on a donné un opéra de Handel. Eh ben cette année, pour le 100e anniversaire, on va donner tous les opéras de Handel.
Et ça fait combien d'opéras en tout ?
Ben, ça en fait 42.
Le mec, il a écrit 42 opéras ?
Il a écrit 42 opéras en 36 ans.
Oh, ah oui. Ah bon ?
Vous savez, rien que d'écrire, de copier la musique, on passerait autant de temps que lui. Sauf que lui, en plus,
il l'a créé.
Il l'a créé. Donc, 42 opéras en moins de 3 semaines. Ça sera du 20 mai au 6 juin. Donc, vous aurez, en vrac, Alessandro, Tarmellano, Admeto, Otello, Ariodante, Ezio, Scipione, Cersei, Giono. Enfin, je ne veux pas tous vous les dire. Hein.
Mais il était italien ou il était allemand ?
Il était allemand, mais à l'époque, tout ça chantait en italien.
Quelle est la spécificité de ce festival ? On va entendre des opéras, mais pas que.
Vous imaginez que monter 42 opéras, financièrement, hein, ouais, techniquement, artistiquement, c'est en moins de 3 semaines, c'est impossible. Donc les Allemands qui, colossal, rigolade, ils sont...
C'est bon ça,
ça fait longtemps
qu'on n'avait pas entendu ça.
Ils se sont dit, on va monter les opéras dans la manière traditionnelle, c'est-à-dire les versions scéniques. On aura aussi des versions de concerts. Alors aujourd'hui, les versions de concerts, il y a un peu de mise en scène. Il n'y a pas de costume, il n'y a pas de décor, mais en général, les chanteurs, il y a un peu de mise en scène. Et puis, vous aurez aussi d'autres manières de donner des opéras de Handel. Vous les aurez en version pour marionnettes.
Ah, c'est sympa.
Mais non, ne
riez
pas.
C'est sympa.
Pour la petite histoire, Joseph Haydn, grand compositeur, a écrit spécifiquement des opéras pour marionnettes. À l'époque, c'était à la mode. Donc, on va faire des opéras.
Mais c'est pour les enfants ou c'est pas
c'est juste en marionnettes?
Non, c'est pour les adultes.
Et c'est pour les adultes. Vous aurez aussi d'autres formes. Vous aurez des arrangements pour orgue, des arrangements... Alors, ça coûte moins cher. Hein. Des arrangements pour quatuor de flûte à bec, ça coûte encore moins cher. Vous aurez des versions pop, des versions jazz, du slam, du tango, des versions multimédia. Bref, si vous aimez un peu Handel et surtout si vous êtes très curieux, je vous encourage à aller fin mai à Göttingen. Je pense que vous serez assez surpris de ce que vous pourrez entendre et voir. On parlait de musique italienne. C'est en effet une cure de musique italienne écrite par un génie saxon, tout simplement.
Tout simplement. Merci beaucoup, Thierry Geffretin. Eva, ça vous a plu à Handel ?
Je préfère Patrick Fiori, je crois.
Thierry Geffretin vient de nous quitter.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Et l'équipe est sauvage revient bien sûr juste après les infos de 17h avec Mathieu Noël et avec l'un de nos correspondants en région qui évoquera les dîners des petites mécaniques, concept facile. On dîne en étant servi par des machines. Alors à tout de suite, on en parle dans quelques instants.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Et oui, c'est la compilation du week-end de cette semaine écoulée en compagnie de Mathieu Noël. 2 heures de découverte de bonne humeur. Chaque après-midi, les journalistes de la rédaction d'Europe 1, je le rappelle, s'affrontent au service de notre culture générale pour gagner le titre de chroniqueur du jour, avec un sujet qui aura bien sûr captivé le plus de monde, et en particulier les invités de Mathieu Noël, à l'arbitrage Eva Rock. Et puis, du côté des invités, je rappelle que cette semaine, il y avait avec nous une sexperte, hein, la journaliste Maya Mazorette, l'acteur Lucien Jean-Baptiste, l'humoriste Monsieur Poulpe, mais aussi François-Xavier Demaison et sans oublier la comédienne Mélanie Douté.
Vous videz la tête tout en vous la remplissant. Voilà l'équation périlleuse de l'équipée sauvage. Une émission feel good qui s'écoute.
Debout, allongé, à quatre pattes comme on veut.
Même simplement assis, ça marche aussi, abrogé. Mélanie Douté est notre invitée. Et Mélanie, que diriez-vous de quitter Paris ?
Oh non.
Non. Et si, je vous emmène non pas dans le somptueux domaine de Murtoli, ma meuf écoute en fait, mais je vous emmène à Toulouse. Bonjour Benjamin Peter.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors Benjamin, aujourd'hui vous nous emmenez à la Halle de la Machine à Toulouse qui organise à partir de ce soir et jusqu'à dimanche les dîners des petites mécaniques, un dîner où les convives sont servis avec des machines.
Ben oui, c'est un projet qui est né dans l'esprit de François Delarosière, vous savez, cet artiste et inventeur génial à qui on doit notamment le robot éléphant de Nantes ou le Minotaure qui a élu domicile ici à Toulouse il y a un peu plus d'un an, entre autres, hein, parce qu'il y en a plein d'autres. Et là, il s'agit d'un banquet conçu pour 300 convives chaque soir, où un bras articulé vient par exemple vous servir le vin, où une roue géante apporte les assiettes, où le pain est projeté vers les invités à l'aide d'une catapulte. Mais juste avant, le repas s'ouvre avec le passage de la machine à amuse-bouche.
Waouh ! Donc c'est une machine avec deux plateaux, sur rail effectivement, ou sur roulette, avec un petit réceptacle dans lequel on met la verrine qui contient l'amuse-bouche, et on a un double pantographe inversé, et on agit sur une manette qui est reliée à une tringlerie avec un ressort, et la machine se déploie et emmène l'amuse-bouche au convive qui vient saisir, et on avance comme ça sur les rails, et on distribue amuse-bouche après amuse-bouche.
Alors, tout le long, un orchestre joue une pièce composée spécialement, et il répétait quand je suis allé les voir hier. Mais le spectacle serait aussi au-dessus de nos têtes, avec par exemple un acrobate accroché à 3 mètres du sol, dont la mission est simplement de vous apporter le sel ou le poivre, ou le lustre des desserts qui viendra clore le repas en beauté. Alors c'est magique, c'est plein de poésie, et ça mobilise tous les sens.
Utiliser des machines pour servir, c'est à la fois une perte de temps, mais c'est emmener dans le geste de service une sorte de poésie, un petit peu loufoque. C'est vraiment un spectacle total. Il y a les oreilles, les odeurs, il y a le goût, il y a les sons, et il y a évidemment la vue avec les machines.
Voilà, et puis contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas des machines qui viennent remplacer les hommes. Je peux vous assurer que tout ça, ça mobilise du monde.
Ah, oui.
En tout, il y a une trentaine de machinistes qui seront là pour les activer.
Il ne faut pas qu'ils vous loupent la bouche pour les amuse-bouches, hein, quand même. Hein.
Non, mais la machine, vous
voyez
bouche.
Ce que
mais
je veux
on
n'est
pas dans les temps modernes, la machine, vous ne l'avez pas dans la bouche directement. Eva.
D'accord.
Okay. Non, vous si, récupérez si la verrine avec la main.
Ah, d'accord.
Mon Dieu, mon Dieu. Alors, Benjamin, j'ai une question qui est peut-être la plus importante quand on évoque un dîner. Est-ce qu'on mange bien?
Oui, bien, en principe, très bien. C'est un repas qui a été concocté par le chef Simon Carlier, qui s'était fait connaître, vous en souvenez peut-être, il y a quelques années grâce à l'émission Masterchef, et qui depuis tient un restaurant gastronomique à Toulouse qui est plutôt très bien coté. Donc oui, on devrait bien manger. Il a imaginé son menu après avoir vu les machines pour qu'il s'adapte au mieux. Après, le problème, c'est que je vois bien, je suis en train de vous faire un peu rêver, même un peu saliver. Vous étiez à deux doigts de prendre la prochaine navette pour Toulouse. Sauf qu'évidemment, ces dîners, ils sont complets. Les 1200 places pour les 4 soirs sont parties en quelques minutes à peine sur Internet. C'est vous dire l'engouement et l'attente qu'il y a autour de cet événement.
Oui, mais vous avez le bras long, Benjamin. Oui. Vous allez pouvoir nous obtenir une petite place, un petit strapontin.
Je vais vous dire, moi, j'en ai récupéré deux parce que j'ai fait F5 pour rafraîchir la page. Et j'ai réussi à en décrocher deux, mais j'en aurais pas plus. Je suis désolé, mais je vous raconterai.
On se mettra sur vos genoux, c'est pas grave.
Avec plaisir.
Eva, je ne sais pas quoi faire de vous. Vous voulez pas que je vous l'envoie à Toulouse en stage d'observation?
Je sais plus
quoi faire. Merci Benjamin Peter.
À bientôt, au revoir.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Eva Rock qui reste avec nous. Mathieu Noël, bien sûr, toujours pour conduire cette équipe est sauvage jusqu'à 18h. Un invité, bien sûr, Maya Mazoret, qui était venue nous parler ce lundi sur Europe 1 de son livre Le sexe selon Maya. Et comme l'équipe est sauvage, c'est une compétition, et bien lundi, Ève Roger était aussi parmi nous pour parler d'accouchement et de sexe.
Pour parler sans tabou de la sexualité, eh bien que fait Ève Roger ? Un sujet sur l'accouchement naturel. Une BD qui veut nous faire croire qu'accoucher sans péridurale peut être aussi zen que ça. Je demande à voir, Ève.
D'abord, je vais commencer par remercier Eva qui m'a donné cette BD. Elle est arrivée avec cette BD en disant « Tiens, regarde, c'est pas mal ». Et je me suis dit « Bon, la naissance en BD, franchement, ça ne m'intéresse pas beaucoup ». Et puis quand j'ai commencé à la lire, eh bien, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, zut, vraiment dommage que je n'ai pas lu cette BD avant moi-même d'avoir accouché. C'est arrivé deux fois. Et je me suis dit, j'aimerais bien recommencer, c'est dire.
Ah, vous vous dites que ça aurait changé la donne.
Mais je pense que ça aurait changé ma vie, de femme qui accouche.
Qu'est-ce qu'une femme qui va accoucher devrait donc savoir, Eve ?
Alors déjà que l'accouchement, mais ça on le sait un peu, n'est pas forcément une étape difficile à passer, que c'est pas forcément long, que c'est pas forcément douloureux et que c'est pas forcément dangereux, bref, que ce n'est pas une pathologie, ça peut être aussi naturel que de respirer ou de faire battre son cœur, et on ne l'a pas appris et ça vient tout seul à certaines conditions. Et là, attention, voilà ma révélation. L'accouchement est déclenché par une hormone qui est la même que celle qui déclenche l'orgasme. C'est l'ocytocine. Et pour que l'ocytocine se libère, il faut qu'au moment de l'accouchement, il faut se trouver dans les mêmes conditions que pour parvenir à la jouissance, c'est-à-dire de l'intimité, une lumière tamisée, un petit espace fermé où personne n'entre ni ne sort, un sentiment de sécurité affective, se sentir en confiance, et des mouvements. Il faut que le corps bouge, il faut que ça remue pour arriver à l'orgasme. Et que proposent les maternités ? L'inverse. Des lumières vives, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, un sentiment de stress et d'inquiétude, et puis enfin et surtout, l'immobilité, les deux pieds dans les étriers, on ne bouge plus, le corps en tout cas. Exactement le contraire de ce qu'il faut pour déclencher l'ocytocine, ça démarre mal.
Mais si toutes ces conditions étaient en place, ça n'empêcherait pas pour autant les femmes de souffrir, Eva.
Eh bien, il y a une autre chose qu'on ignore, c'est que l'ocytocine a une amie, une autre hormone qui s'appelle l'endorphine. Et donc, quand l'ocytocine se déclenche pour déclencher la contraction, claque derrière, l'endorphine, elle arrive pour apaiser la douleur. Et l'endorphine, vous savez, c'est cette hormone qui fait qu'après l'orgasme, eh bien, on s'endort parce qu'on est apaisé. Donc déjà, si on sait ça, ça peut atténuer la souffrance, car ce qui l'accentue, explique Lucille Gomez, l'autrice de cette BD, c'est la peur. Écoutez, le premier récit de son accouchement, c'était il y a 6 ans.
J'ai eu mal, et c'est marrant parce que j'ai eu mal au moment où j'ai paniqué, où je suis arrivée à la maternité et où la sage-femme qui devait être présente pour m'accompagner n'était pas là. Et là, j'ai vraiment eu peur et j'ai eu mal. Et puis, c'est incroyable parce qu'au moment où j'ai entendu sa voix dans le couloir, j'ai plus mal, instantanément.
Voilà, alors déjà, il ne faut pas avoir peur et puis il faut faire les mouvements dont je vous ai parlé. Mais il faut faire le mouvement debout, allongé, à 4 pattes, comme on veut, se laisser guider par son corps. Et là, Lucille Gomez, elle a vraiment tout fait ce qu'il fallait pour le deuxième enfant. Écoutez comment ça s'est terminé.
Je me suis mise une petite guirlande dans ma salle de bain, dans l'obscurité. Je me suis mise sous l'eau chaude. J'ai commencé à faire des 8 avec mon bassin. Et puis, au moment où j'ai senti que j'avais envie de pousser, je me suis dit, mais on ne va jamais réussir à aller à la maternité. j'ai crié « je vais pas y arriver » ou « j'y arriverai pas » et finalement je me suis reprise en disant « je vais y arriver » et 4 minutes après, le bébé était là. Mais alors là, je peux vraiment dire que j'ai pas eu mal du tout.
Voilà, ça c'est l'accouchement tel qu'elle le prône, elle avait tout réuni. Oui. L'intimité, les mouvements, l'obscurité, la lumière tamisée, voilà.
Sauf que ça n'existe pas dans notre pays d'accoucher dans ces conditions idéales.
Hélas non, sauf exception. Il y a certaines maternités qui essaient de mettre ça en pratique. Il y a 8 maisons de naissance en France où on peut, comme aux Pays-Bas, accoucher dans une maison. C'est une vraie maison avec des chambres. Et puis il y a un salon au milieu. Et puis dans votre chambre, il y a une baignoire. Mais ça n'existe pas. Et j'ai même appris, grâce à Lucille Gomez, que accoucher à domicile, c'est interdit en France. On n'a pas le droit d'accoucher à domicile.
Mais depuis quand? Parce qu'à une époque, j'imagine qu'on interdit.
Je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est interdit. Il faut que la femme, pour aller plus loin, la sage-femme, elle doit avoir une assurance qui coûte 25 000 euros.
D'accord.
Donc, vous voyez, on n'y est pas encore. Mais c'est vrai que si jamais ça devait se développer, ce livre est vraiment une bible, comme vous dites.
16h, 18h,
l'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1,
l'équipée sauvage.
2 heures, oui, pour se détendre avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock. Les sujets aussi passionnants, avec des sujets passionnants grâce aux journalistes de la rédaction d'Europe 1 et un invité d'honneur toujours présent mercredi, c'était Monsieur Poulpe, que l'on peut retrouver sur Canal+, grâce à 2 programmes, Poulpovision et Crac Crac le podcast. Monsieur Poulpe, c'est aussi une BD originale, Alain au Pays des Merveilles.
Cette émission, c'est un peu une merguez. On sait à quoi ça ressemble, mais on sait pas trop ce qu'il y a dedans.
C'est tellement... Bonjour, monsieur Poulpe.
Bonjour. Vous êtes un peu la merguez de la radio en France, Mathieu.
Exactement. C'est bien vu. Alors, pour moi, vous êtes une légende, monsieur Poulpe, mais si jamais votre légende n'était pas arrivée aux oreilles de certains de nos auditeurs, je rappelle que vous êtes l'inoubliable présentateur de Feu, les recettes pompettes. Aujourd'hui, vous présentez Poulpovision, une émission tout aussi déjantée, mais sans alcool. Et vous vous lancez aussi dans la BD avec Alain au Pays des Merveilles, la première BD dont vous êtes le crayon. Vous nous expliquez vite fait le concept, c'est interactif, c'est nous qui devons dessiner la BD.
Oui, c'est uniquement par flemme. Hein,
je comprends le concept.
Non, mais en gros, on a créé une BD avec David Mourier où il y a des endroits qui sont effacés par un méchant. Et donc, c'est au lecteur ou à la lectrice d'aider à re-remplir la BD pour faire avancer la narration. Donc, c'est un truc où chaque BD sera unique, du coup.
Dans votre émission Poulpovision, qui est aussi un joyeux bordel, l'invité dispose d'un bouton promo sur lequel il peut appuyer pour qu'on revienne à sa promo si jamais on s'éloigne trop
d'accord.
du sujet.
Donc j'en ai un.
Ici aussi, vous avez cette possibilité. À tout moment, vous appuyez sur Eva Rock, ça fera... Et Eva récitera votre promo. Vous êtes prête, Eva ?
C'est moche, ça.
Vous êtes prête ? J'aimerais, avant même de commencer la promo, sensibiliser les gens à l'univers de Monsieur Poulpe, que même moi, qui suis pourtant quand même dans le milieu un petit peu, devrais connaître mieux que ça, eh bien... En regardant toutes vos vidéos hier sur Internet, j'ai découvert qu'il y avait quand même un niveau de production dans tout ce que vous faites, mais tout est léché. Quel but ? Comment vous
pouvez tout avoir... est léché, comment... Mathieu.
Tout est léché, surtout dans Crac Crac, oui. Votre émission qui est devenue un podcast aujourd'hui sur le sexe. Où vous trouvez ces moyens ? Comment on finance des plateaux comme vous faites avec des productions, des décors, des costumes ? C'est assez impressionnant.
Il faut avoir du bagou. Une histoire de l'entre-gens. Non, mais là, tu parles des sketchs du Studio Bagel, j'imagine.
Oui,
entre autres, ouais.
Bah, Studio Bagel, c'était.
Oui,
il y avait de l'argent à l'époque où le Studio Bagel existait. C'était Canal+ qui finançait. Ils avaient réussi à trouver un bon modèle économique qui faisait que, par exemple, si je disais, ouais, j'ai une idée de sketch où il y a un alien qui se branle dans l'œil d'un paysan, il y avait beaucoup de budget pour faire ça. Il y avait beaucoup de budget pour faire ça. Donc, j'ai eu de la chance, surtout.
Son nom est Poulpe. Monsieur Poulpe passe l'après-midi sur Europe 1.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Qui est pour vous, monsieur Poulpe ? On est allé vous poser la question. Voici non pas un micro-trottoir, toujours monté pour présenter l'invité comme la 8e merveille du monde. Voici notre micro-trottrash. C'est la même chose, sauf qu'on n'a pas payé un monteur pour censurer les vacheries.
Bonjour, monsieur Poulpe.
C'est qui, monsieur Poulpe ? Tu connais monsieur Poulpe ? Attends, je vois sa teuté. Bon, ouais, il y a quelque chose, on fait quoi ?
Il a un gros nez, plutôt un sourire ravageur, de grandes blagues tordues sexuelles.
Un humour absurde un peu.
Monsieur Poulpe. Exactement, il travaillait avec Antoine Decaune, bien sûr. En plus, voilà. Donc, en fait, j'adore son humour.
Il est spécial, mais il est surtout super beau gosse.
C'est un animal avec des tentacules. Bah, qui est un peu gluant.
Monsieur Calamar, j'espère qu'il finira pas en friture.
Ok, aussi je vois. Oui, si, il a fait les recettes pompettes, etc. Non, je pense qu'il a un bon bagou et puis un humour à l'Antoine Decaune.
Au revoir, monsieur Poulpe.
Monsieur le Poulpe, je vous respecte et je vous admire.
Waouh.
Un humour
Bonjour Alain Antoine Decaune, donc ça doit me faire plaisir vu que vous nous disiez tout à l'heure que c'était un peu votre...
Il est dur à prononcer apparemment mon pseudo.
Mais oui, vous avez eu droit à Monsieur Pulpe.
C'est le micro-trottoir pompette aussi. Peut-être que Sébastien Bordenave qui le fait pour nous, peut-être il donne un petit truc à boire aux gens qu'on croise dans la rue. Il y a une fantaisie chez vous, moi ce qui me plaît le plus, c'est ce côté potache mais chic. Je ne sais pas comment l'exprimer.
Moi je dirais une coquetterie plus qu'une fantaisie.
Une coquetterie, c'est le mot que vous employez.
Ouais.
Comment vous l'avez trouvé cet humour ? L'univers que vous avez aujourd'hui, il s'est façonné peu à peu ou dès cette première vidéo en 97, tout
non,
Monsieur Poulpe
non,
était
non,
déjà
non, mais,
là.
Eh ben, je pense que c'est vraiment grâce à Antoine Decaune, pour le coup, où j'ai appris que c'était 1000 fois plus croustillant de faire une blague dégueulasse si elle est dite avec élégance. Et c'est aussi grâce à Antoine que j'ai appris la différence entre le contenu et le contenant. Et c'est hyper important de, quand on fait, comme moi, de l'humour un peu border, c'est hyper important de réfléchir à comment on envoie cette vanne dégueulasse. Mmh. Et c'est clairement grâce à Antoine que j'ai appris ça.
Est-ce que c'est difficile, justement, aujourd'hui, de pratiquer l'humour border, comme vous dites ?
Oui, mais tant mieux, comme ça, ça trie vachement les humoristes.
Ça hausse le niveau d'exigence.
Ouais, complètement.
Mais... quand on est border, donc border c'est frontière, en anglais on est toujours sur une limite, il faut être du bon côté. C'est pas, parfois, est-ce
pas,
que vous-même vous vous dites...
Non, pas forcément. Il y a des fois où des blagues, on sait qu'elles vont être de l'autre côté, mais que ça mérite de la faire. Quoi. Faut juste faire attention à comment on la sort et à qui.
Ça, c'est une phrase.
C'est une phrase.
Rien que pour cette phrase. J'ai hâte que vous reveniez, on va caler votre retour dans l'émission très bientôt. Monsieur Poulpe est avec nous.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h.
Avec nous, revivez les moments marquants de la semaine écoulée autour de Mathieu Noël, sa complice Eva Rock, un invité, ici Lucien Jean-Baptiste, l'acteur-réalisateur qui était venu nous parler de sa série sur France 2, Il a déjà tes yeux. Place maintenant au sujet de l'un de nos compétiteurs chroniqueurs. Et mardi, elle était avec nous, Anne Le Gall.
Anne qui n'est pas n'importe qui puisqu'elle vient d'être nommée responsable de l'aménagement des terrasses d'Europe 1. Mais elle garde la tête froide.
Restez modeste surtout.
Oui, oui, oui. Son atout principal, son incoercible fraîcheur et surtout son caractère aussi entier que le lait dans la fameuse pâte à crêpes de sa maman, la joyeuse pornichaise Gwendoline Le Gall.
Mais c'est vrai, les crêpes au beurre, c'est toute mon enfance.
Anne Le Gall, une joie de vie non pasteurisée. Anne, depuis quelque temps, on a l'impression que les grandes marques de prêt-à-porter se soucient un peu plus de l'environnement. Est-ce que c'est une impression ? Est-ce que c'est vrai ? Ou bien c'est partiellement vrai ?
Alors, c'est surtout aujourd'hui que sont officiellement lancés les travaux pour créer un affichage environnemental sur les vêtements. Donc, vous savez que l'industrie textile pollue autant que le trafic maritime et aérien réunis.
C'est vous qui me l'avez appris, moi.
Et donc, les représentants de la filière textile avaient rendez-vous ce matin au ministère de la Transition écologique pour commencer à plancher sur cette étiquette environnementale parce que, effectivement, selon que nos vêtements sont fabriqués en coton ou en matière synthétique, selon qu'ils ont une qualité qui permet de durer ou pas, selon qu'ils sont agrémentés de paillettes, de boutons, de poches en tout genre ou pas, selon qu'ils sont faciles à recycler ou pas, qu'ils sont produits loin d'Europe ou pas. Tous ces critères font que leur impact sur l'environnement n'est pas du tout le même. Et par exemple, un t-shirt en coton émet 2 fois moins de gaz à effet de serre qu'un t-shirt en polyester, même si c'est exactement le même. Et aujourd'hui, le consommateur, dans tout ça, a du mal à s'y retrouver.
Alors, ça pourrait ressembler à quoi, un affichage environnemental sur les vêtements ?
Alors, ça pourrait ressembler à, vous savez, au Nutri-Score sur les aliments. Donc, une pastille de couleur, de vert à rouge, selon la note du vêtement.
Sur l'étiquette, hein, pas gravé sur le vêtement. Hein,
voilà,
parce que sinon, j'aimerais pas avoir un Nutri-Score sur moi.
On pourrait aussi imaginer voilà, une lettre ABCD. Il y a eu un test qui a été fait par l'ADEME, l'Agence de l'environnement, il y a 2 ans. Et l'étiquette qui a remporté tous les suffrages, c'est celle qui ressemble le plus à l'étiquette qu'on trouve sur les appareils électroménagers, vous savez,
oui.
Pour
bah oui, mais comme
la
ça,
consommation
moins,
d'énergie, voilà, un code couleur, des barres, une lettre. Ce sera noté en fait en fonction du poids carbone du vêtement, de la quantité d'eau utilisée pour le produire, des produits chimiques utilisés et puis évidemment du critère social pour les fabricants, les salariés de ce secteur textile.
Il y en a qui vont faire la gueule, hein.
Ah oui, surtout ceux qui vendent des jeans. Oui. Il est prévu pour quand cet étiquetage des vêtements, on sait déjà ?
Alors pas tout de suite, les travaux démarrent aujourd'hui, mais selon avec les périodes de test, ça va prendre plusieurs années. Alors en attendant, sachez qu'il existe déjà des labels éco-responsables et des plateformes éco-responsables pour le textile. Il y a le label GOTS, notamment GOTS, et vous avez une plateforme qui réunit toutes les marques de vêtements éco-responsables qui est assez intéressante, qui s'appelle Slow We Are. Donc l'an nous sommes, il y a un jeu de mots avec where, we are. Et signe que l'industrie textile est en train vraiment d'évoluer, vous savez que H&M va se lancer aussi dans la location de vêtements.
Oui, ben H&M, déjà éviter de faire des collections tous les deux mois.
Voilà.
Parce que, c'est juste
c'est un peu l'emblème de la fast fashion. Ils vont se lancer alors d'abord en Suède et en Chine dans la location de vêtements. Et autre signe des temps, c'est que de plus en plus de marques se mettent à faire des vêtements d'occasion. Et vous avez même maintenant des vintage corners qui ouvrent dans les magasins, même assez haut de gamme. Il y en a aux Galeries Lafayette. Et le printemps a lancé une plateforme aussi de vêtements d'occasion.
Lucien Jean-Baptiste, vous faites attention à ce que vous portez. On évoquait tout à l'heure vos enfants que vous décrivez comme des bobos.
C'est un peu triste. Non, mais c'est mon épouse qui gère un peu tout ça. Et c'est vrai qu'on est, machin responsable. Un petit peu. Il y a tellement de trucs responsables.
Je suis responsable.
Vous, Lucien, vous êtes bien comme H&M. Vous êtes un peu machin responsable.
Voilà.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Chaque après-midi avec Mathieu Noël, on n'échappe pas au quiz qui oppose l'invité à Eva Rock. Et Mathieu Noël a choisi de rendre hommage à l'entrepreneur qu'est François-Xavier de Maison. Le comédien a plusieurs cordes à son arc, mais avant le quiz, c'est l'entretien. Et c'était il y a 8 jours sur Europe 1, il était l'invité donc de Mathieu Noël en présence du public.
Un public dont, ma foi, il est difficile de dire s'il est venu plutôt pour moi ou plutôt pour notre invité, François-Xavier de Maison. C'est 50-50, quoi, je dirais. Public déchaîné, public exalté, mais public également extrêmement inquiet. En effet, François-Xavier de Maison, aussi talentueux et sympathique soit-il, n'en reste pas moins le chat noir de l'équipe est sauvage, puisqu'en effet, la dernière fois qu'il est venu, c'était le 26 septembre dernier. Nous avions enregistré le matin et à peine avions-nous bouclé une fabuleuse émission que Jacques Chirac nous quittait. Comme vous l'imaginez, l'émission est partie rapidement à la poubelle. François-Xavier était venu pour rien. Période terrible pour les artistes en promo, comme Patrick Timsit, visiblement très ému de la mort de Jacques Chirac, nous le confiait le lendemain. Patrick, le décès de Jacques Chirac, ça vous a ému, ça vous a touché?
Je vais faire C'est à vous, moi. Donc ça a été annulé.
Ah, bah donc...
On a senti la tristesse sur mon visage, c'est Chirac. Non, c'est à vous.
Ah oui, cette mort est venue au mauvais moment, quoi.
Voilà.
Alors aujourd'hui, on croise les doigts, d'autant qu'on joue vraiment avec le feu, puisque François-Xavier, vous venez nous voir pour une pièce dans laquelle vous interprétez...
Le président de la République.
Voilà. Alors, c'est ce qui s'appelle Tenter le diable. Prions. La pièce s'intitule Par le bout du nez au Théâtre Antoine à Paris à partir du 25 février. Et les auteurs ne sont autres que ceux du Prénom, une des comédies qui a eu le plus gros succès au théâtre, qui a même été adaptée au cinéma, gage de qualité.
Exactement.
Alors on les cite, Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patelière. Alors, dans la pièce, vous donnez la réplique à François Berléand, qu'on recevait l'autre jour, et qui nous disait que c'était bon de son côté. Niveau texte, il était béton,
oui,
il pouvait y aller.
Prêt.
Est-ce que vous confirmez?
Vous avez dit ça.
Oui. C'est pas le cas.
Il a même ajouté que lui était plus prêt que vous.
Oui, mais bon, voilà, ça c'est... Je ne commente même pas.
On le disait la dernière fois que vous êtes venu, pas de bol, Jacques Chirac nous quittait 5 minutes après. Enregistrement à la poubelle. Or, incroyable coïncidence, vous venez aujourd'hui nous parler d'une pièce que vous jouerez à partir du 25 février au Théâtre Antoine, dans laquelle vous incarnez justement un président fraîchement élu. Ce dernier doit prononcer son discours d'investiture, mais dès qu'il commence à prononcer les premiers mots, que se passe-t-il pour lui?
Écoutez, c'est impossible pour lui. Il est pris d'une espèce de démangeaison nasale, d'une espèce de picotement du nez terrible. Il est paralysé, il a les larmes aux yeux, il fait des grimaces terribles. Donc c'est impossible pour lui, il est ridicule. Et ça devient une farce extraordinaire, écrite donc par nos amis, les auteurs du Prénom, où un psy devient son dernier recours à 4 heures de son discours d'investiture. Et c'est donc tout ce rapport de force entre le psy et ce président qui est très très sceptique vis-à-vis de toutes les méthodes de psychanalyse. Donc c'est vraiment c'est très très drôle. Et c'est très intelligent, c'est un vrai affrontement entre deux personnes que tout oppose. Et bien sûr,
Et c'est en temps réel, hein, si j'ai bien compris.
Oui,
on a eu le texte. C'est en temps réel. C'est 1h30, c'est une séance.
1h30, une séance de psy en accéléré, hein, puisque ceux qui ont fait de la psychanalyse savent que c'est pas qu'une séance. Mm. Mais là, c'est. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film, Le Discours d'un roi.
Mais oui, on y pense forcément.
Il y a un peu
ça.
Où vous avez cet homme qui est installé dans le pouvoir. Enfin là, c'est assez récent, mais qui a la légitimité suprême, puisque c'est le roi ou le président. Et en face, il y a ce psy qui va prendre un ascendant sur lui qui est tout à fait passionnant.
Et vous êtes sceptique au début.
Il n'y croit pas. Il n'y croit pas, il ne comprend pas que le type est là avec son petit carnet.
C'est limite, il préférait avoir un petit médicament pour que ça.
Oui, bah oui, pour lui, c'est
une petite pilule et ça serait
pragmatique. Donc pour lui, une pilule, que, voilà, et puis on n'en parle plus. Et c'est plus compliqué que ça. Et le psy va aller faire un véritable voyage dans le parcours de ce président, dans son enfance, etc. Et c'est assez jouissif. Et surtout, avec Berléand, c'est un bonheur.
Vous avez des tics dans la vie comme ça? Non, aucun, visiblement. On tout va bien pour ça. Vous.
J'ai trois micros.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Un président était décédé la dernière fois qu'il nous avait rendu visite et maintenant voilà qu'il incarne lui-même un président au théâtre à partir du 25 février. C'est ce que j'appelle un plan com bien rodé. François-Xavier de Maison est notre invité cet après-midi. Alors, François-Xavier, là, c'est au Théâtre Antoine que vous jouerez à partir du 25, par le bout du nez, avec François Berléand, mise en scène Bernard Murat. Mais vous êtes aussi, on le disait, co-directeur du Théâtre de l'Œuvre à Paris. Comment vous choisissez les pièces qui ont l'honneur de jouer dans cette salle?
Eh bien,
au coup de cœur.
Oui, ben voilà, au coup de cœur.
Au coup de cœur. Qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment?
En ce moment, vous avez Marina Rollman, qui est exceptionnelle, et puis Mathieu Madénian. Et tous les jours, à 19h, le Cercle des Illusionnistes, grand succès d'Alexis Michalik. Et on essaye de maintenir cet équilibre entre le théâtre, le seul en scène, la musique. On a eu aussi Jean-Louis Aubert en concert acoustique. On a eu Thomas Fersen, Charlotte Rampling, Didier Lockwood, qui était venu faire des duos exceptionnels. C'est vraiment un lieu qui vit sous toutes ses formes. Et qui, voilà, ça fait 4 ans, je crois, qu'on a repris la direction. Et voilà, ça marche très fort, le Théâtre de l'Œuvre. On est très contents.
Un lieu éclectique de Charlotte Rampling à Mathieu Madénian, notre ami Mathieu Madénian, qu'on adore ici. On l'a reçu, hein, Mathieu Madénian. Ce que je préfère chez lui, c'est sa classe. Mathieu Madénian, vous avez 43 ans, je ne me trompe pas.
Au repos.
Ça, c'est la Madénian Stutch, vous voyez. À découvrir donc au Théâtre de l'Œuvre. On continue de parler de vos mille et une activités, François-Xavier de Maison. Seulement voilà, il y a un moment où on ne plaisante pas dans cette émission, c'est le quiz. Cher François-Xavier, le thème qui va vous opposer à Eva Rock sera un hommage non pas à l'humoriste, non pas à l'acteur, non pas à l'homme, mais à l'entrepreneur que vous êtes. Vous êtes producteur, propriétaire de théâtre, on l'a dit, président-directeur général de B2 Productions. Et vous n'êtes pas le seul à avoir créé une entreprise avec un nom chelou, ce sera l'objet de notre quiz. Je vous donne des noms de sociétés, vous me dites si elles existent ou non.
Oh là là.
Eva Rock.
Oui.
Une salle de gym et de fitness s'appelle Jim Morrison. Vrai ou faux?
Nul. Non, c'est faux.
C'est faux.
Ouais.
Bon, c'est faux.
Bah oui.
Qui pourrait être assez con.
Bah oui.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Vraie société. Une salle de gym, c'est au Mexique en fait. À Mexicali, figurez-vous.
Ça n'existe pas.
Bah, je ne sais pas. Je vais peut-être virer le mec qui fait ce coup. François-Xavier de Maison.
Oui.
Un magasin de chaussures à Tourcoing qui s'appelle On manque pas de talons. Vrai ou faux magasin?
Vrai.
Vrai magasin?
Vrai magasin.
Faux magasin.
Oh.
Ah, je pensais que ce serait vrai, moi aussi.
C'est dommage, bon, j'aurais adoré.
Il y a de bien avoir un qui existe, peut-être pas à Tourcoing.
Ouais.
Et Baroque.
Oui.
Un magasin de fleurs intitulé La Grosse Tige, à Bernay, dans l'Eure.
Ah oui.
Oui.
Je dis oui.
Ça vous plaît, ça?
Ouais, c'est marrant.
Oui, bon non, fausse société.
Ah merde. Ah.
C'est un piège et vous êtes tombé dedans assez facilement. François-Xavier de Maison, un coiffeur...
Ah, les coiffeurs, c'est...
Ah, les coiffeurs, il y en a plein.
Les coiffeurs, c'est... Oui.
Ouais. Un coiffeur qui s'appelle Larray, R-A-I-E, Création, à Guéméné-Pinfao.
Vrai ou faux? Oui, monsieur, j'y crois.
Oui, j'ai cru que vous y êtes allé. Oui, vrai commerce. Guéméné-Pinfao, je ne sais pas comment on dit, c'est en Loire-Atlantique et le salon est au 18
Guéméné,
rue de l'Hôtel de Ville.
Capitale de l'Andouille.
Capitale de l'Andouille, effectivement. Ah là, ah là, 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 on reconnaît le spécialiste.
Oui, l'Andouille de Guéméné, c'est très très bon, ça se mange froid, c'est délicieux, c'est fumé.
Légèrement
devant
relevé.
La cheminée, voilà, c'est... Avec un petit verre de...
Il a le regard plongé dans l'horizon et il guette l'arrivée d'Olivier Pouls. Alors, Eva Rock, attention.
Oui.
Un resto où on sert du cochon qui s'appelle Jurassic Pork. Vrai ou faux restaurant?
Ah, c'est drôle. Ah, j'ai vrai. Ah, j'ai trop
vous dites vrai?
Mais oui, j'ai envie.
Vous avez trop envie d'y aller?
Mais oui.
Eh ben, je sais où vous en mettez pour la Saint-Valentin. Vrai restaurant. Il se situe dans le sud-ouest du Guatemala. Bon, on prendra quelques jours.
Oui, d'accord,
on dira à la direction d'Europe 1 qu'on prend quelques jours. Dans la ville de Laguna. Attention, cette question va vous départager. François-Xavier de Maison, les suceuses de l'Ouest. Il s'agirait d'une société de location de camions pour aspirer les gravats. Vraie ou fausse société?
Je vais prendre un risque, je vais jouer le tout pour le tout. Je vais dire vrai.
Vous dites vrai. Selon François-Xavier de Maison, il y aurait une entreprise de location de camions pour aspirer les gravats qui s'intitulerait Les Suceuses de l'Ouest.
Je la connais.
C'est une vraie société. Alain Siroux y a eu recours. Mais c'est vrai.
Dans l'Orne.
Mais oui. C'est vrai.
Oui. J'habite juste à côté.
Mais c'est vrai.
C'est
en plus.
Dingue. Absolument, ça me fait rire tous les jours.
Alors,
j'ai
attendez.
Des photos.
Il a appelé Les Suceuses.
Allô Les Suceuses. Oui, j'ai une photos. Extraction là.
Oui.
Alors, vraie ouais, société.
Vous avez perdu votre stylo, monsieur.
Il propose, mon stylo est parti très loin. Il propose à la location 3 camions roses de fabrication allemande, Janine, Monica et Linda, oui. Pour aspirer des gravats oui. Et les mettre directement en conteneur.
Le patron est très sympa en plus.
Pas de détails, merci. François-Xavier de Maison remporte le quiz.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Et on reste bien entendu avec Mathieu Noël, Eva Rock et c'est Olivier Pouls qui s'apprête à nous dévoiler une recette gourmande, facile, originale et pas chère. C'était jeudi sur Europe 1 en présence de la comédienne Mélanie Douté.
Une force de la nature, dotée de spécificités anatomiques extraordinaires comme par exemple un estomac à double fond, un foie en titane et peut-être d'autres spécificités tout aussi étonnantes à en croire l'attraction qu'Olivier Pouls exerce sur sa collègue Eva Rock avec qui il entretient désormais, avouons-le, une relation torride extra-professionnelle qu'il consomme une fois par semaine avant l'émission à l'Ibis Budget de la Porte de Versailles.
Oh
ce matin, c'était un peu spécial.
C'est pas l'anniversaire de ta femme aujourd'hui ?
Si. J'ai mis une heure à m'en rendre compte ce matin. Putain, je suis mort.
Oh alors, Olivier, reprenons-nous.
Mais ce sont
saluons,
vieux de
saluons votre
ans,
épouse et passons plutôt à la recette du jour.
Je
Olivier,
pensais qu'il avait été effacé.
Moi aussi. Ce
alors, vous inquiétez pas, ici, rien ne se perd. Secret, tout se transforme.
Comment cuisine ?
Qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui à Mélanie Douté ?
Eh bien, pourquoi pas des croque-monsieur, parce que...
Vous êtes... Tu te fais fatiguer.
Oui, mais non, pas du
ça
tout.
Ça va, je vous inspire un truc de dingue. On va se faire chier.
Le croque-monsieur, c'est quand même le symbole de la gastronomie bistrotière parisienne. Vous êtes parisienne.
Oui.
J'imagine que vous traînez un peu dans les bistrots aussi, de temps en temps.
Une belle image.
C'est une belle image, Mélanie. Mais
moi, je trouve ça
avec
une qualité
admirable. Avec son petit nez, qu'est-ce qu'elle fait là?
Mais j'ai plus de respect pour une femme qui aime le croque-monsieur oui, et le oui, bistrot que le boulgour ou le quinoa.
Ah oui, ça c'est sûr, Olivier, bien on vous sûr. Connaît. Alors comment on concocte un croque-monsieur différent ?
Ben, tout d'abord, est-ce que vous savez où est né le croque-monsieur et pourquoi ça s'appelle un croque-monsieur ?
Non. Mais non, pourquoi ?
Eh ben voilà, bonne question. Alors le croque-monsieur est né en 1910 exactement dans un bistrot parisien qui s'appelait le Bel Âge. Et dont le patron, jalousé par ses rivaux, avait la réputation d'être cannibale. Et un jour, alors qu'il avait préparé, on lui avait commandé des jambons beurre, il n'y avait plus de baguettes, il n'avait plus que du pain de mie, il a eu l'idée de mettre dans ce pain de mie du jambon, du fromage et de le passer au four. Les clients ont trouvé ça délicieux, ont dit « mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce que la viande ?» Et il a dit bah, « c'est du monsieur ». D'où l'appellation croque-monsieur qui est restée.
Mais c'est vrai ça, Olivier ?
C'est une authentique
mais
histoire.
Mais t'as vraiment enquêté un peu là ?
Ah, j'ai totalement enquêté. Ouais, c'est 2 ans d'enquête.
Gwendoline de Bono. Gwendoline
de Bono en Irak à côté, c'est rien.
C'est rien du tout.
Ah, non, c'est rien.
Ah, vous avez pris des risques en plus.
Ah, bah, j'ai pris d'énormes risques. J'attends toujours le prix d'ailleurs qui pourrait m'être décerné pour cette découverte énorme.
Le prix Albert Londres, probablement, il est pour vous. Alors donc, Olivier, alors, comment on fait aujourd'hui un croque-monsieur ?
Mais moi, je vous propose des croque-monsieur un peu originaux, pas simplement jambon fromage.
J'en des croques hawaïens ?
Deux.
Oh non,
alors avec l'ananas dedans. Je suis pas un fan du croque
non,
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 mais en revanche, je vous propose 2 croques à base de fruits un peu originaux, un salé et un sucré. Ouais. De saison en plus. Je vous en propose un avec du pain de campagne, de la poire,
oh
du roquefort
oh oui
et un peu de noix. Voilà une belle idée. Tranche de pain de campagne.
Le mec commande ses propres idées. voilà une
objection,
belle idée.
Votre honneur, c'est une nouvelle tartine, mais ça n'a rien à voir avec un croque-monsieur.
Bah, ça peut s'appeler un croque-poire roquefort, évidemment. Alors, c'est pas un croque... Évidemment, c'est pas la recette originale.
C'est un croque-vegan.
Je vous propose quelque chose d'un petit peu plus recherché, voyez-vous. Et donc, de fines lamelles de poire, des morceaux de roquefort, un petit peu de noix concassées, on referme avec une autre tranche de pain de campagne, 2 manières de le cuire, 3 même, soit l'appareil à croque-monsieur si vous en avez un, dans le four ou poêlé, encore mieux dans un petit
c'est
peu
mieux,
de beurre.
Poêle.
Ah ben vous allez avoir le pain croustillant, c'est délicieux. Et puis pour Eva qui n'aime pas le fromage,
oui.
Un petit croque-monsieur de dessert par exemple. Qu'est-ce que vous diriez
que c'est un croque-monsieur de
dessert. Bah écoutez, un peu de pain brioché.
Il est expert gastronomique de repas, hein, c'est pas rien.
Et qu'est-ce que vous penseriez d'un peu de pain brioché, de lamelles de pommes et de petits morceaux de chocolat ?
Oui, ah, oui, ah, oui, oui, pourquoi pas.
Ah, oui.
Et alors là, on referme, c'est pareil, cuisson, le chocolat va fondre, les pommes vont devenir un tout petit peu fondantes voilà. Également. Et puis vous avez le côté croustillant de votre pain.
Et à la poêle,
autour.
Ça aussi.
Et à la poêle, bien sûr, aussi. Voilà, deux idées de croque-monsieur pour ce soir, facile, pas cher et franchement inratable. Mathieu, j'arrive à 19h30.
Alors franchement, je veux bien que tu arrives à 19h30. Ça me va très très bien, ce menu me va parfaitement. Merci beaucoup Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Oui, on vit pratiquement les dernières minutes en compagnie de Mathieu Noël, cette compilation du week-end, hein, l'équipe est sauvage, toujours à ses côtés Varrock. Et puis un invité d'honneur lundi, c'était une sexperte, journaliste spécialisée dans les questions de sexualité, qui est aussi militante féministe, peintre et illustratrice, Maya Mazorette.
Aujourd'hui, on a décidé de mettre sur la table ces questions d'ordre intime qu'on n'ose pas poser en temps normal. Pour nous éclairer, une sexperte, auteure de deux livres sur le sujet et de nombreuses chroniques dans le monde, Maya Mazorette. D'ailleurs, Maya, est-ce que ce côté tabou, on n'en parle pas, du sexe, est en train de reculer dans notre société ? Moi, personnellement, j'ai cette impression-là, mais c'est peut-être juste mon point de vue.
Non, absolument. Alors ensuite, c'est pas parce qu'on parle beaucoup de quelque chose qu'on parle bien de oui. quelque chose. Et j'ai l'impression que, par exemple, il y a 15-20 ans, quand on commençait à parler de ces sujets-là, c'était beaucoup pour parler de la vie sexuelle, des échangistes, pour un petit peu dramatiser les choses. Et qu'aujourd'hui, justement, on s'attache plutôt aux personnes qui sont en couple, aux missionnaires du samedi soir, aux un ou deux rapports sexuels par semaine assez standards, et qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de choses à dire sur la vie sexuelle des gens normaux, et que c'est pas mal, en fait, de sortir justement de quelque chose de très spectaculaire, un peu pas putassier, mais qui est... On est souvent accusé en fait de parler de sexe que pour faire de l'audience. Alors effectivement, ça marche bien, mais ça veut pas dire qu'il y a rien à dire.
Quand vous parlez des relations banales, le missionnaire du samedi soir, vous êtes pour remettre un petit peu de folie quand même dans tout ça.
Oui, mais sans en fait culpabiliser les personnes qui n'ont pas une vie sexuelle extraordinaire, parce qu'effectivement, la routine, elle existe. On voit bien qu'elle produit des conséquences, qu'il y a pas mal de personnes qui s'ennuient. C'est beaucoup les femmes qui s'ennuient au lit. Généralement, au bout de un an de couple seulement, les femmes commencent à s'ennuyer. Mais pourquoi ? C'est parce qu'on fait toujours la même chose. Donc, on fait toujours le script psychosexuel. Donc, c'est s'embrasser, se caresser, un peu de sexe orogénital, pénétration, éjaculation terminée. Et c'est vrai que si on fait toujours la même chose, alors qu'on sait très bien que sur les femmes, ça marche pas forcément, parce que seulement un quart, un tiers des femmes arrivent à avoir des orgasmes avec la pénétration vaginale seulement, et bien forcément, faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, on s'ennuie.
Mais ça m'inspire une question sur la musique et sur les fameuses playlists love que certains peuvent mettre.
J'ai cru que vous alliez me demander mon fiasco sexuel à moi.
Vous en avez connu, vous ?
Bah évidemment, tout le temps. Non, c'est vrai que comme moi, je suis obligée d'essayer plein de choses, et bien bien sûr que je me plante tout le temps.
Mais alors, racontez-nous un fiasco racontable.
Oui, à un moment, j'ai voulu faire comme dans ce film qui était sorti, oh là, il y a un petit moment qui s'appelait The Pillow Book, où c'était une nana qui faisait de la chorégraphie sur le corps de son amant. Et j'ai essayé de faire ça avec un produit qui n'était pas fait spécialement pour le corps, et j'ai donné une allergie de la peau sur le pénis de mon partenaire.
Donc, oui, effectivement, voilà. Fiasco sexuel total.
Vous avez gardé le partenaire ?
Non.
Ça doit défiler, hein. Ouais. Il faut tester. Vous,
non, mais il y a des produits qui servent à faire ça, et maintenant je le sais, je ne ferai plus cette erreur.
Il faut bien regarder les allergènes, c'est comme au restaurant. Vous citez des scientifiques qui ont recensé 267 explications pour avoir envie de faire l'amour. Comment ils arrivent à ce chiffre de 267 ?
Ils interrogent, alors je crois que c'était 1600 personnes aux États-Unis, c'était l'université du Texas en 2007, très précisément, et ils sont tombés sur donc 230 cette raison en fait, pour faire l'amour. Et en fait, il y a des choses qui ont trait au plaisir, au fait de raffermir le lien émotionnel avec son partenaire, au fait des fois de vouloir un avantage matériel comme de l'argent. Et puis c'est marrant parce qu'il y a plein de réponses qui sont super rigolotes comme « c'était une star », je voulais embêter mes parents, je voulais m'endormir. Donc c'est assez rigolo parce qu'on a l'impression que forcément, si on fait du sexe, c'est soit pour le plaisir, soit parce que, je sais pas, on est amoureux ou on a du désir. Mais il y a plein d'autres raisons, choses qui rentrent en jeu.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Le sexe, quelle part occupe-t-il dans votre vie ? Trouvez-vous qu'on en parle différemment aujourd'hui ? Si oui, qu'est-ce qui a changé ? On est allé vous poser la question.
Les jeunes sont plus directs.
Ah ouais.
Les mots sont plus crus et plus directs.
Alors là, ça devient grave.
Donc nous qui sommes pas de cette génération, on trouve ça peut-être cru ou trop direct.
Tout le monde parle de sexe.
C'est la semaine dernière, il y a des ouvriers qui font des travaux. Ils arrivent à deux. Sur les deux, je vois un mec martiniquais.
Mais le sexe, c'est la vie.
Vous voyez, j'ai encore, à mon âge, l'œil. Quelle beauté ce mec!
Pour ma part, je suis plutôt, je parle avec un petit peu, pas trop d'expérience, mais voilà, après, si on veut se donner du plaisir, on se donne du plaisir.
Moi non.
Maintenant, les garçons, quand ils viennent nous parler, c'est oui, j'ai envie de faire quelque chose avec toi, et c'est en général pas un truc sérieux ni fondé, genre c'est directement le sexe.
C'est mais en plus, j'ai même lu un article, c'était bon de pratiquer le sexe le matin, au réveil.
Bah, ils ont une bite à la place du cerveau.
Moi, si je peux donner un conseil, c'est de toujours prendre son temps.
Ah ouais.
Et ne pas penser qu'à soi.
Prendre son temps et ne pas penser qu'à soi. Est-ce que c'est un bon précepte, Samaï Mazoret?
Ah, absolument, oui. Il se trouve que moi, c'est le meilleur conseil sexuel qu'on m'ait jamais donné. C'était d'ailleurs un atelier aux États-Unis fait par un homme homosexuel qui proposait des choses formidables. Il disait, voilà, si vous pensez que vous allez trop lentement dans votre sexualité, essayez de ralentir encore. Et une fois que vous vous trouvez vraiment, vraiment trop lent, ralentissez encore. Et j'ai essayé et ça marche super bien. Et depuis, c'est vraiment un conseil que je donne de justement prendre son temps et évidemment faire attention à l'autre. Il y a tellement de choses qu'on peut faire tout seul. Aujourd'hui, la masturbation, elle explose. Il y a des choses de plus en plus intéressantes à faire seul, avec l'aide comme ça de, par exemple, pornographie érotique dont je parlais tout à l'heure, avec l'aide des sextoys dont on parlait juste avant. Et une fois qu'on est avec quelqu'un, eh ben justement, on devrait pouvoir se mettre un petit peu de côté pour vraiment faire attention à l'autre, à lui demander donc ses limites, ses vulnérabilités, ses préférences, c'est-à-dire pas forcément appliquer un script qui est censé marcher sur tout le monde. Et ça, c'était un petit peu les conseils sexuels il y a 15 ans, c'était des recettes magiques. Aujourd'hui, c'est plus chirurgical, c'est comment est-ce qu'on fait, soit en tant que personne unique, avec son partenaire qui est une autre personne unique.
Qu'est-ce que c'est que la subversion joyeuse, Maya Mazoret?
Alors, je pense qu'on nous a beaucoup vendu la subversion sexuelle comme étant la découverte des zones sombres du sexe, quelque chose de très noir, qui est basé sur la douleur, la contrainte, la culpabilité, le danger. Et c'est devenu en fait quelque chose de tellement omniprésent. Enfin, moi, c'était dans la culture sexuelle quand j'ai grandi. Alors, on me faisait lire Sade, ouais. Bataille, Gabriel Masneff. Et aujourd'hui, il me semble que justement, ce qui est le plus subversif, c'est d'être dans quelque chose de très ludique, de très joyeux, dans l'attention aux autres, en essayant jamais de faire mal à ses partenaires, en essayant jamais soi-même de se blesser un petit peu, comme si on était plus intensément en vie sexuellement quand on avait mal. Et il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus subversif que d'être, qui est dans une sexualité lumineuse et ouverte.
Soyons joyeux, même dans le sexe. Je sens que le
mais
sexe,
pas de
selon Maya.
Parce que ça coupe tout, les fous rires.
Ah, ça, oui, alors ça, oui. Ouais. Attention, on n'a plus le temps, mais le fou rire, non. Hein. Ah, le fou rire, ça gâche tout. Hein.
Mais moi, j'aime bien, en fait.
Ah bon
bah,
parfois,
justement, oui, pourquoi pas se marrer un petit peu.
Oui, mais quand on est l'homme, parfois, si on se marre, on n'arrive plus à tout faire.
Non, mais quand vous dites, c'est intéressant parce que vous dites, depuis arriver à tout faire, j'imagine que vous parlez de perdre son érection. Mais la sexualité ne passe pas que par les érections. C'est, et peut-être que la meilleure chose qui pourrait vous arriver, c'est justement de vous marrer un bon coup, de perdre votre érection, parce que comme ça, vous seriez engagé à essayer autre chose. Non mais les fiascos comme ça, c'est aussi une merveilleuse manière de renouveler son répertoire sexuel. Donc au contraire, rigolez, plantez-vous, perdez vos érections et faites autre chose.
Je sens que le sexe selon Maya va devenir mon nouveau livre de chevet. Que dis-je ? Ma Bible !
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Et l'équipe est sauvage revient bien entendu dès demain 16h sur Europe 1 avec Mathieu Noël et Varoc, les journalistes de la rédaction et bien sûr les invités de la semaine écoulée. À suivre, votre grand journal du soir présenté ce soir par François Claus.